18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy, ravie de vous retrouver.
Ravie aussi d'être à l'écoute de ce monde qui change en votre compagnie et ce monde que nous suivons encore jusqu'à 20h dans ce grand journal. Je vous donne quelques éléments de notre sommaire ce soir. À 18h15, comment les policiers vivent-ils la manifestation du jour à Paris? Défilé bloqué, rassemblement statique toléré, nous serons avec l'un de leurs représentants. 18h30, on va refaire l'actualité ce soir sur Europe 1 avec le choc économique hérité du Covid. 800 000 pertes d'emplois. Au bas mot, dans les mois qui suivent, l'analyse d'Éric Woerth ce soir, président de la Commission des Finances. 18h40, pour l'interview découverte, nous parlerons du dernier roman de Romain Sardou, dans la veine de sa saga américaine. 18h50, une chanson dans la tête et les doubles sens de grands textes à la une. De Mylène Farmer à Gainsbourg et les anecdotes à la clé de Fabien Lecoeuvre ce soir, comme chaque week-end. 19h15, notre débat, la France est-elle raciste? Faut-il revoir la représentativité des personnes de couleur dans la vie publique? Nous mettrons face à face ce soir l'avocat Gilles William Goldnadel et Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Et puis 19h40, affaire à suivre, le constat du docteur Hélène Roussineau. Le monde des soins à domicile, grand oublié de la crise du Covid. Des aidants aux aides-soignants, elle lance un cri d'alarme ce soir. Merci d'être fidèle à ce grand journal. Voici pour commencer toutes les infos de 18h avec Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h, bonne fin de journée avec nous sur Europe 1.
On est venu dire stop, on veut changer cette société, on veut que ça évolue. Aujourd'hui, on est en 2020 et c'est pas normal qu'il y ait encore des personnes tuées par la police à cause de leur couleur de peau, c'est pas normal.
Les manifestants contre le racisme, les violences policières toujours sur la place de la République à Paris, leur cortège est transformé en rassemblement statique, situation tendue, nous serons sur place.
Le constructeur automobile PSA renonce à faire venir en renfort des salariés polonais sur un site du nord de la France. Cela ne rassure pas pour autant les syndicats.
Tavares n'a pas renoncé à son projet global. Il a reculé sous la pression médiatique pour le site de PSA en bas. Donc à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui se posent.
Et puis le Futuroscope de nouveau ouvert au public pour la plus grande joie des visiteurs qui profitent d'être moins nombreux.
On sait qu'on est attendu à telle heure et on n'a pas besoin d'attendre des heures et des heures avant de passer.
Donc vraiment, on peut profiter quand même sans avoir peur d'attraper la maladie.
On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le défilé parisien contre le racisme et les violences policières à l'appel de la Ligue des droits de l'homme et du comité Adama Traoré s'est finalement transformé, Fabienne Lemoyle, en un rassemblement statique.
Et c'est ainsi qu'ils sont plusieurs milliers sur la place de la République en ce moment, avec les forces de l'ordre qui ont bloqué tout départ vers l'opéra où les manifestants voulaient se diriger. Cela a créé des tensions. On en est où, Hélène Terzian?
Eh bien Fabienne, depuis 14h30, les plusieurs milliers de manifestants continuent d'occuper cette place de la République, puisqu'au moment de s'élancer en direction du quartier de l'Opéra, eh bien les membres du comité Adama Traoré en tête de cortège se sont vus bloquer le passage, et ce, disent-ils, alors que le préfet Didier Lallement leur aurait finalement donné l'autorisation à la mi-journée. Assa Traoré, fer de lance du mouvement, dénonce micro à la main, dos aux gendarmes et sous les huées des manifestants, une volte-face.
Vous avez répondu à l'appel du peuple. Aujourd'hui, le pays répressaire, la police nous bloque. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est nous qui avons. On est sorti dans la rue. Vous avez répondu présent pour la vérité et pour la dignité de l'être humain, pour justice pour Adama, pour justice pour toutes les victimes. On rentrera pas chez nous comme ça.
Une manifestation qui est donc devenue statique, qui s'est passée jusqu'à maintenant relativement dans le calme, hein, malgré les quelques tensions depuis une heure environ, quelques tirs de gaz lacrymogène, ainsi qu'au tout début du rassemblement, une énorme affiche déployée par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, évoquant une forme de racisme anti-blanc. Des provocations pour certains qui sont loin de décourager les manifestants, comme Léa et Tania, venus dénoncer les violences policières.
Nous, on est venu dire stop, on veut changer cette société, on veut que ça évolue. Aujourd'hui, on est en 2020 et c'est pas normal qu'il y ait encore des personnes tuées par la police à cause de leur couleur de peau, c'est pas normal. Et c'est pas qu'aux États-Unis, c'est en France, c'est partout.
Pareil, c'est partout.
Et il faut que ça cesse et il faut qu'on continue à venir tout le temps et qu'on se bat tous les jours au quotidien pour que ça change.
Comme ces deux jeunes militantes, beaucoup évoquent un mouvement antiraciste qui n'est pas prêt de s'essouffler. Une mère de famille me disait même tout à l'heure que s'il fallait rester ici toute la nuit, elle le ferait.
Et parmi les personnalités présentes, place de la République, en début de manifestation, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui jugé odieux cette façon de bloquer les manifestants et a demandé à ce qu'on laisse les gens se déplacer.
Il va réagir à cette doctrine du maintien et du rassemblement statique. Notre invité tout à l'heure est sur l'état d'esprit aujourd'hui des forces de police au cœur de cette manifestation. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, nous rejoint dans quelques instants. À la une également et au cœur de ce journal, le constructeur automobile PSA qui renonce donc à faire travailler des salariés polonais dans son usine d'Ourdin dans le nord de la France.
L'idée, Wendy, c'était de renforcer les équipes locales, une décision qui avait fait bondir Bercy, qui avait demandé à PSA d'embaucher plutôt des intérimaires. Et donc Aurélien Fleureau, le constructeur, est revenu sur sa décision.
Oui, la pression était devenue trop forte. La portée symbolique de cette venue de salariés polonais du groupe PSA sur un site français ne passait pas, ni auprès des syndicats, ni auprès du gouvernement. Et c'est donc ce matin, au cours d'une conversation téléphonique entre Carlos Tavares et Bruno Le Maire, que le patron de PSA s'est engagé à revenir sur ce projet. Une discussion constructive, dit-on du côté de Bercy, et une décision politique prise par le constructeur qui, jusque-là, expliquait faire preuve de rationalité économique en faisant venir pour 3 mois des salariés du groupe PSA dans une autre usine du groupe à Ourdin, dans le Nord, là où les commandes de véhicules utilitaires sont très nombreuses. En clair, pas de différence faite selon la nationalité des salariés, mais plutôt selon leur statut. La crise oblige à faire des économies, alors il semblait préférable de faire travailler en France des salariés qui sont en activité partielle en Pologne, avant de reprendre ensuite les intérimaires. Mais cette logique n'a pas tenu face à l'émoi suscité par ce projet en pleine crise de l'emploi en France.
Alors, est-ce que cette décision de la direction de PSA rassure les syndicats ? Pas vraiment, quand on entend le secrétaire général de la CGT PSA du site d'Ourdin qui s'est confié à Sophie Echen.
Dire que c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est encore prématuré parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants et les précisions de la direction comment elle fait justement pour créer l'équipe de nuit. Est-ce que ça va être des intérimaires, des CDD, elle va embaucher en CDI, elle va demander de la main-d'œuvre sur d'autres sites en France. La direction pourrait annoncer aussi demain que c'est des salariés de Poissy, de Metz, de Sochaux ou d'autres sites de France qui viendraient sur le site de PSA Ourdin, mais le problème est là. Tavares n'a pas renoncé à son projet global. Il a reculé sous la pression médiatique pour le site de PSA Ourdin. Donc à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui se posent.
Franck Théry, le secrétaire général de la CGT PSA du site d'Ourdin dans le Nord.
Il est 18h06, la suite du journal sur Europe 1. Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et c'est dans 2 semaines qu'aura lieu le second tour des municipales. Et à Paris, la campagne bat son plein, Fabienne.
Dans la capitale, Anne Hidalgo continue à faire la course en tête. À droite, l'heure est au rassemblement avec 2 femmes qui ne s'étaient pas encore affichées ensemble. Rachida Dati, arrivée 2e lors du premier tour, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. C'est désormais chose faite. C'était ce matin, porte d'Aubervilliers, dans le quartier de ce qui est devenu la colline du Crac, fréquentée par les toxicomanes. Un déplacement qu'Adrien Beck a suivi pour Europe 1.
Ça y est, un morceau de la galette de Crac. Je vous montre, je ne vais pas le mettre sur les mains, j'ai trop peur.
Valérie Pécresse aux côtés de Rachida Dati dans ce jardin partagé qui borde la porte d'Aubervilliers. Préservatifs, seringues et même parfois drogues y sont régulièrement retrouvés par les habitants.
Ça veut dire que si les enfants viennent, ils peuvent trouver de la drogue.
Après, quand on dit il y a de l'insécurité, on est des fachos. Si on dit il y a des trafiquants, on stigmatise.
Sécurité, propreté, thème rassembleur à droite, et ça tombe bien, c'est justement une image de rassemblement qu'ont voulu montrer ce matin la candidate à Paris et la présidente de la région Île-de-France qui n'est plus chez les Républicains. Les frictions du mois de janvier du passé, dit Valérie Pécresse.
Rachida est arrivée première au premier tour de l'opposition à Paris, et donc le rassemblement devait naturellement se faire derrière elle et autour de son projet. Et il faut que les Parisiens sachent que c'est possible de changer de maire le 28 juin.
Un nouveau chapitre donc scellé ce matin, bien loin de l'avant-premier tour, où Rachida Dati accusait Valérie Pécresse de vouloir soutenir Benjamin Griveaux ou de favoriser Anne Hidalgo.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et toujours en politique, demain soir, Emmanuel Macron doit prendre la parole. Nous suivrons d'ailleurs en direct son allocution sur notre antenne. Beaucoup le pressent pour que la France se déconfine plus rapidement.
Et en tout cas, à Poitiers, l'heure est déjà à la réouverture du Futuroscope, reprise progressive. D'abord le week-end, tous les jours à partir du 27 juin. Et c'est avec une joie non dissimulée, comme a pu le constater Caroline Baudry.
Ah,
c'était géant, exceptionnel, des sensations vraiment, voilà, j'ai cru mourir, mais c'est bien.
À peine remises de leur voyage dans l'espace, Maëva et Laetitia, masques sur le nez, regardent sur leur smartphone leur position dans la file d'attente virtuelle de la prochaine attraction. Une nouveauté pour ces habitués afin d'éviter les rassemblements.
C'est vraiment pas mal.
On sait qu'on est attendu à telle heure et on n'a pas besoin d'attendre des heures et des heures avant de passer.
Donc vraiment, on peut profiter quand même sans avoir peur d'attraper la maladie. Ça fait 3 mois que j'attends. Dès que ça est ouvert, j'ai dit bon, on y va.
Presque tous les employés sont eux aussi de retour. Ils portent un masque et désinfectent les sièges et poignées des manèges après chaque passage. Un protocole rappelé par Rodolphe Bouin, le directeur du site.
Évidemment, des nettoyages qui sont de plus en plus intensifs. 250 points de gel hydroalcoolique. C'est ça l'enjeu. Il faut s'acquitter de l'exigence sanitaire sans dégrader l'expérience de visite. Parce que les Français ont envie de partager des émotions.
Pour certains des 3500 visiteurs du jour, l'émotion Futuroscope se prolongera ce soir grâce aux hôtels partenaires qui ouvre également.
Voilà, et c'est donc objectif Mars. J'espère que Caroline l'a testé.
Merci beaucoup. On vous retrouve demain à la présentation d'Europe Midi. Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Merci Fabienne. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
L'actualité sportive, les grands invités aussi sur l'antenne, c'est avec vous dès 20h ce soir.
Invité exceptionnel ce soir en direct, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il a eu les oreilles qui sifflent ces dernières semaines. C'est vrai qu'il a cristallisé toute l'attention médiatique car il a été le principal opposant à un arrêt du championnat de France. Il y a beaucoup de questions à lui poser évidemment sur la Ligue des Champions, sur son club qui a repris l'entraînement également. Donc invité exceptionnel, ne loupez pas ce rendez-vous.
Dès 20h sur Europe 1, Europe 1 Sport. Merci Lionel Rousseau. Un petit point météo, Valérie Darmon, avec un temps qui se calme sensiblement demain. Rien à voir avec le côté instable des derniers jours, Valérie.
Effectivement, déjà le soleil revient sur le pourtour méditerranéen jusqu'en moyenne vallée du Rhône, au prix du Mistral et de la Tramontane assez fort. Les éclaircies reviennent très majoritairement entre les Hauts-de-France aussi et la vallée de la Garonne. Dans un temps sec, reste que les nuages sont nombreux et le ciel pluvieux sur les frontières de l'Est, le temps que le mauvais temps s'évacue. Petite instabilité encore si vous habitez Caen, Brest, Vannes et l'île de Ré, mais avec moins de pluie que ce samedi. Les températures commencent enfin à s'homogénéiser, avec des maximales entre 19 à Rodez et 27 à Perpignan, 20 annoncés à Angers, Laval, Alençon et Clermont-Ferrand, 21 à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Strasbourg, et 23 à Paris.
C'était la météo plus sèche de Valérie Darmon qui revient à 18h30 tout à l'heure sur Europe 1. Et jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec vous, Wendy Bouchard. Oui, et une fin de manifestation qui se tend à Paris. Pas de défilé, rassemblement statique. On va parler de cette doctrine de maintien de l'ordre avec notre invité dans un instant. La police sur les dents. Denis Jacob est avec nous sur Europe 1, juste après la pause. 18h13, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand journal du soir sur Europe 1. Et à la une ce soir, Wendy, cette manifestation interdite à Paris, toujours en cours, à l'appel du comité Adama Traoré.
Oui, 15 000 personnes se sont rassemblées place de la République, chiffre communiqué à l'instant par la préfecture de police de Paris. Rassemblement interdit pour raisons sanitaires et qui sera resté statique tout du long. Et à 18h13, moment où nous prenons l'antenne avec vous, bonsoir Denis Jacob.
Bonsoir Andy Bouchard.
Vous qui êtes secrétaire général du syndicat Alternatif Police, eh bien, la situation se tend. C'est toujours évidemment en particulier la fin de ce genre de rassemblement qui est scruté par vos policiers présents sur le terrain.
Oui, et c'est toujours particulier quand il s'agit surtout d'une manifestation non déclarée et non autorisée, dans laquelle s'agrègent toujours des éléments perturbateurs, et on les a déjà vus cet après-midi, notamment des militants d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche. On a pu apercevoir des drapeaux d'anarchistes. Bon, ça n'augure rien de bon pour la fin de ce rassemblement.
Alors comment on fait justement à partir du moment où on a choisi de confiner, de tolérer un rassemblement statique? Comment on fait pour commencer à évacuer ceux qui le souhaitent le plus tôt possible pour échapper justement à cette manifestation qui dégénère?
Ben justement, comme l'a fait la préfecture de police, et là on ne pourra pas la taxer de ne pas avoir informé oui. en amont les manifestants, puisque des messages ont été diffusés, y compris sur Twitter, informant la population qu'ils pouvaient quitter le rassemblement, qu'il y avait des endroits pour sortir. Donc les gens peuvent quitter le rassemblement sans la moindre difficulté. Il y a des voies de sortie, comme dans chaque manifestation qui est contenue sur une place, et notamment celle-là, la place de la République.
Voilà, pour qu'il ne reste au bout du compte que les éléments perturbateurs plus facilement interpellables. N'était Jean-Luc... Alors, oui.
Oui, c'est un peu plus complexe. En fait, le but, bien évidemment, aussi, quand on maintient une manifestation, enfin un rassemblement comme ça, ce statique, bah, le but, c'est aussi parmi les manifestants d'identifier des éléments perturbateurs et de procéder à leur interpellation si on voit qu'ils commencent à s'organiser pour s'en prendre aux forces de sécurité.
Bien sûr. En tout cas, c'était le bon choix pour vous. Maintenir de fait, parce que les personnes mobilisées l'étaient de toute façon, maintenir un rassemblement statique, interdire en revanche le défilé, ne serait-ce que pour protéger les commerces alentours, Denis Jacob.
Alors ça, vous savez, c'est toujours un choix difficile, mais il ne m'intervient pas de le commenter. C'est des choix d'autorité, c'est des choix politiques, je pense, peut-être pour ne pas revivre ce que l'on a vécu pendant la période des Gilets jaunes, c'est-à-dire une manifestation qui se déplace et qui s'en prend aux devantures des magasins, aux établissements bancaires, au mobilier urbain. Voilà, c'est un choix qui appartient au préfet de police, et ce choix, je ne pense pas qu'il le prenne seul, hein. Les autorités politiques en sont informées, donc s'il a décidé de le faire comme cela, c'est que derrière, il y a eu la validation du ministère de l'Intérieur à minima.
Mais c'était un choix qui était de nature peut-être à soulager vos hommes, maintenir l'ordre en statique plutôt que de suivre un cortège. C'est une doctrine aussi différente pour les policiers sur le terrain.
C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe et dangereux pour tout le monde, hein, que ce soit pour les manifestants que pour mes collègues. C'est toujours plus compliqué de gérer une manifestation non déclarée qui est mobile plutôt que de maintenir les gens en un seul endroit, parce que c'est beaucoup plus facilement canalisable. Ça nécessite pas forcément le même nombre d'effectifs en présentiel, même si on ne voit pas tout, parce qu'il n'y a pas que les CRS ou les gendarmes mobiles qui sont en première ligne en interdisant l'accès aux rues qui sont là, hein, en arrière, vous avez tout un tas d'autres effectifs en attente, et en attente notamment d'intervention si jamais ça dégénère.
C'est une cause importante, hein, la lutte contre le racisme, les violences policières, mais nous sommes en état d'urgence sanitaire, Denis Jacob, certains l'ont peut-être oublié. Cela expose aussi vos hommes à partir du moment où en France, aujourd'hui, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.
Complètement, mais c'est évident, et je ne l'espère pas, mais malheureusement, on voit ce qui se passe par ailleurs. On voit que le fait d'avoir eu des rassemblements peuvent générer une nouvelle contamination. Et on verra dans quelques semaines ce que cela donne. Mais quand on voit déjà qu'en Chine, ils sont à nouveau en confinement parce qu'il y a une nouvelle vague de contamination, ce type de rassemblement risque de propager beaucoup plus vite le virus. Mais que les choses soient claires, la cause de lutte contre le racisme est légitime, et bien évidemment que le racisme et les violences policières n'ont pas leur place dans notre institution, même si ça reste des affaires très marginales, ça ne doit pas exister, et que la cause sur la forme, sur le fond est bonne, sur la forme elle est un peu plus contestable quand on essaye d'importer une affaire américaine qui n'a rien à voir avec celle dont on parle en ce moment en France.
Et pour tout cela justement, Denis Jacob, compte tenu de la sursollicitation de vos troupes, du malaise aussi qui existe actuellement face au ministre de l'Intérieur, comment on choisit les hommes qu'on va mobiliser dans ce contexte face à une manifestation interdite mais qui de fait a quand même lieu? Comment on choisit les policiers qui tiendront le coup moralement aussi si cela dégénère ce soir?
Vous savez, dans la police nationale, il y a ce qu'on appelle les forces mobiles de sécurité. Donc vous avez les CRS, les compagnies républicaines de sécurité pour la police nationale, les escadrons de gendarmerie mobile pour la gendarmerie nationale. Ce sont des hommes qui sont aguerris au maintien de l'ordre, qui sont professionnels, qui doivent tenir coûte que coûte. Ils sont formés tout au long de l'année pour cela. C'est leur métier, ils ne font que cela. Et donc, ce sont eux qui, en priorité, sont mobilisés sur les manifestations.
Pour le reste, vos confrères ont crié leur colère et leur ras-le-bol. Appel à la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui vous a reçu jeudi et vendredi. Vous n'avez pas, vous, dans la police, des moyens d'afficher votre mécontentement, disons, durablement. Quelle forme ce mécontentement pourrait-il prendre dans les jours qui viennent ?
Eh bien, le mécontentement, nous l'avons lancé puisque nous sommes à l'initiative de ces mouvements de contestation, puisque dès les annonces de Christophe Castaner lundi, nous avons lancé une série d'actions, et la première est, et qui peut être durable, c'est de dire aux policiers puisqu'on a des annonces ministérielles, notamment le retrait, la suppression de ce qu'on appelle la clé d'étranglement, qui est une technique d'intervention dans la police nationale et qui nous démunit pour maîtriser un individu récalcitrant.
Oui.
Eh bien, puisqu'on nous retire les moyens de faire notre travail en toute sécurité physique et en toute sécurité juridique, eh bien, on dit aux policiers, ne prenez pas ce risque, puisque demain, on vous pointera du doigt et on dira encore que c'est une violence policière. Mm-hmm. Donc, ne procédez plus aux interpellations, sauf quand, bien évidemment, il y a un risque de danger pour autrui, où on est tenu, bien évidemment, d'intervenir. Mais s'il n'y a pas un risque physique pour une personne, nous disons, Alternative Police, à nos collègues, ne faites pas les interpellations tant que nous n'avons pas les outils nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité.
Oui, évidemment, ça c'est une situation intenable, donc vous attendez réponse à toutes ces missives et à ces interrogations. Denis Jacob, vous qui êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police, nous commentions ensemble cette manifestation du jour des casseurs en ce moment face à la police, place de la République à Paris. Merci Denis Jacob.
Merci.
Europe 1, 18h21, le grand journal du soir se poursuit dans un instant avec un petit coup de projecteur sur l'Institut Raphaël.
Oui, un institut d'après-cancer qui accompagne les malades du cancer en phase post-Covid aujourd'hui. Eh bien, nous mettons en lumière une initiative ce soir sur Europe 1 avec eux. À tout de suite.
18h20, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Et on va maintenant parler des malades du cancer qui ont traversé le confinement et qui ont encore besoin d'aide en cette période post-Covid.
Évidemment, Marlène, et nous nous intéressons à cette initiative lancée par l'Institut Raphaël à Levallois, près de Paris, qui apporte un soutien et un accompagnement physique, psychologique aux patients touchés par le cancer. Bonsoir, docteur Toledano.
Bonsoir Wendy.
Et vous êtes président de cet institut, cancérologue, directeur médical de la radiochirurgie du centre Hartmann. Et nous nous étions parlé il y a un petit peu plus d'un an sur Europe 1 lors de l'inauguration de votre institut qui prodigue cet accompagnement, je le précise, entièrement gratuit parce que vous vivez de dons et de fonds privés. Et ça, d'abord, c'est à saluer. C'est parfaitement honorable. Comment vos patients ont-ils vécu la pandémie d'abord, docteur, et avez-vous continué l'accompagnement pendant cette période si délicate?
Alors, pendant cette période, deux profils de patients. On a eu ceux qui ont redoublé de peur parce qu'ils avaient déjà peur du cancer et le confinement a été mal vécu. Et on a eu ceux qui ont eu un espèce de confinement enchanté parce que finalement, ça leur a permis de se retrouver en famille et le cancer leur avait donné déjà des armes pour lutter contre ça.
Mmh. Sauf que beaucoup de patients ont dû limiter parfois leur parcours de soins. Or, les besoins, notamment psychologiques, sont réels. Quelle est l'urgence pour un certain nombre de patients que vous revoyez aujourd'hui à l'Institut Raphaël?
Alors, nous avons été obligés de mettre de côté tout l'accompagnement nutritionnel, les émotions, l'activité physique, le bien-être. Et c'est vrai que beaucoup de patients sont fragilisés par la maladie et par les traitements. Et avec cause du risque de contamination, on a dû fermer une partie de nos activités et on a beaucoup de déprime aujourd'hui et des gens qui se sont moins soignés.
Mmh. Voilà pourquoi, à leur destination, notamment, vous relayez avec nous cette opération sur Europe 1. C'est une marque de voiture, Land Rover, qui met à disposition un certain nombre de voitures pour aider les patients à se déplacer jusqu'à chez vous. Donc, ne pas prendre les transports en commun, vous leur facilitez la tâche, si j'ose dire.
Oui, exactement. On a eu la chance de...
On vous écoute, docteur Alain Toledano.
On a eu la chance d'être accompagné par la Croix-Rouge et Land Rover qui a mis à disposition des Range Rover de façon gracieuse pour que les bénévoles de la Croix-Rouge aillent chercher les patients chez eux à domicile, les amènent faire leurs soins d'accompagnement et les ramènent, tout cela gratuitement pour que les patients commencent à se déconfiner aussi mentalement et qu'on reprenne le cours des parcours d'accompagnement.
Oui, dans des conditions optimales de sécurité, dans des conditions optimales de confiance. Ce sont deux valeurs très importantes aussi au cœur de la guérison.
Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'on a un système de soins efficient qui traite très bien la maladie. Vous savez, on peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Il y a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu le cancer et qui vivent difficilement les méfaits de ces traitements. Et on peut les réhabiliter, on peut les aider à aller mieux, on peut les soigner et les prendre soin. Et c'est pour ça qu'on a monté cet Institut Raphaël comme d'autres maisons de soins d'accompagnement. Mais on a besoin effectivement de pouvoir être accompagnés dans cette démarche. Et l'entreprise sociale et solidaire que nous sommes a rencontré rencontrer les entreprises de marché, Land Rover et la Croix-Rouge, les bénévoles. Mmh. Et ensemble, une formidable action de solidarité nous permet d'accompagner au mieux tous ces patients.
Et pour ceux qui seraient sensibles à votre projet, Alain Toledano, vous vivez de fonds privés, de dons également, donc on peut aussi apporter notre soutien à cette cause, à cet accompagnement des malades du cancer.
Oui, ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui qu'on est dans un très beau pays qui nous rembourse les soins quand on est malade. Mais on peut faire mieux, on peut faire plus, s'occuper des gens en globalité. Et c'est pour ça qu'on doit démontrer le bénéfice à s'occuper de chaque patient. Et aujourd'hui, tous les soins de l'Institut Raphaël, on en a prodigué 12 000 pour 1 500 patients, sont évalués et que toutes ces entreprises nous soutiennent, partagent nos valeurs de façon éco-responsable. C'est exactement le mouvement qu'on attendrait après ce Covid.
Merci, docteur Alain Toledano. Pardon pour la qualité un peu aléatoire de la ligne, mais voilà, nous étions avec vous pour ce projet, l'Institut Raphaël à Levallois, et cette opération depuis le mois de mai et qui se prolongera jusqu'en septembre, les Range Rover qui seront conduits par des bénévoles de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine pour emmener les patients de leur domicile à cet Institut Raphaël. Merci à vous.
Merci.
À suivre sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Puis on refait l'actu, Wendy.
L'impact de la crise sanitaire sur l'économie réelle. Les inquiétudes de centaines de milliers de Français aujourd'hui et la réaction ce soir sur Europe 1 du président de la Commission des Finances. Je reçois Éric Woerth. À tout de suite.
Vous écoutez le Grand Journal du soir sur Europe 1, il est 18h30, Wendy Bouchard.
Et si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Des milliers de personnes mobilisées partout en France pour protester contre le racisme et les violences policières. À Paris, en ce moment, des tensions. La police a riposté à des jets de projectiles en chargeant et en tirant des gaz lacrymogènes. Le cortège n'a pas pu défiler cet après-midi. Plus de 15 000 personnes, selon la police, avaient répondu à l'appel du comité Adama Traoré. Tous ces manifestants sont restés bloqués place de la République. Le début du rassemblement parisien a été marqué par le déploiement d'une banderole du groupe Génération Identitaire pour dénoncer le racisme anti-blanc. 12 personnes ont été interpellées. Rouvrir le débat sur les statistiques ethniques, c'est ce que suggère Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, et ce afin de lutter contre les discriminations raciales. Et puis PSA renonce à faire venir travailler sur son site du Nord certains de ses ouvriers polonais. Après que le gouvernement ait monté au créneau, Carlos Tavares, le patron du groupe automobile, a annoncé qu'il abandonnait le projet.
Merci Sophie, à tout à l'heure 19h pour le journal sur Europe 1. Moins de pluie demain dans notre ciel, c'est le programme de dimanche, Valérie.
Tout à fait, parce que l'anticyclone se renforce un petit peu sur l'Espagne et la dépression Nadine, à laquelle on doit toutes ces intempéries, se comble. Résultat, les pressions remontent sur la France, le temps reste instable mais plus ensoleillé, les averses sont moins nombreuses et les éclaircies gagnent du terrain sur la majeure partie du pays. Les nuages subsistent sur les frontières de l'Est et en Bretagne. Les températures de l'après-midi peinent à remonter dans les normales de saison. À vos thermomètres, il fera 20 degrés à Pau et Tarbes, 21 à Colmar et Strasbourg, 22 à Metz et Albi, 24 à Lyon et Carcassonne.
Valérie Darmon pour la météo et vous revenez à 19h10 sur Europe 1. Après la crise sanitaire, la crise économique, Wendy, et les projections de Bruno Le Maire, 800 000 chômeurs de plus dans les prochains mois.
Bonsoir Éric Woerth.
Oui, bonsoir.
Et merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour commenter ces perspectives inquiétantes qui vous ont été exposées mercredi d'ailleurs pour partie en commission des finances dont vous êtes le président. Comment peut-on annoncer avec certitude, Éric Woerth, un chiffre comme celui-ci, 800 000 pertes d'emplois dans les prochains mois? Et sait-on déjà quels secteurs seraient les plus touchés en France?
Écoutez, d'abord, c'est évidemment des chiffres du chômage qui s'annoncent, qui sont extraordinairement préoccupants réellement, c'est renoué avec le chômage de masse pour la France, qui n'avait jamais vraiment tellement réglé ce sujet terrible du chômage, puisqu'on est en début de crise, on était à plus de 8% de chômeurs, mais on va passer probablement à 11 ou un peu plus de 11% de chômeurs, donc c'est plus d'un million de chômeurs de plus. C'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a plus d'intérim, ou très très peu. Toutes ces missions ont été supprimées. Qu'il y a eu une dizaine de millions de personnes qui sont en activité partielle, qui sont reprises au fur et à mesure, mais au compte-gouttes en fonction de l'évolution de la croissance. Il y a beaucoup d'inquiétudes économiques. Parce que la récession est très profonde, comme jamais, plus de 11% aussi, décidément les chiffres se ressemblent. Et donc il y a de l'attentisme un peu partout. Donc on voit des plans sociaux qui se programment ou qui déjà se déclarent dans la plupart des régions, dans le domaine du commerce, dans le domaine du tourisme, dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel. Aussi, la crise, elle est aussi révélatrice de faiblesses antérieures et pas uniquement de la récession qu'elle provoque. C'est aussi, au fond, très exposé comme ça au grand jour, la plupart des faiblesses qui étaient parfois un peu cachées et qui se révèlent.
Par exemple, Eric Woerth, parce qu'on sait que la crise du coronavirus a été mondiale, mais la France pourrait connaître la pire récession au monde avec l'Italie et l'Espagne. Est-ce qu'on a des moyens d'expliquer aujourd'hui, à contrario de la situation américaine d'ailleurs, où le taux de chômage a explosé, mais où on recrée des emplois depuis quelques semaines?
Mais la France est rigide. La France est terriblement rigide. Elle est rigide administrativement, elle est rigide politiquement, elle est rigide économiquement. Donc elle réagit mal. Elle avait en 2008 réagi un peu mieux parce que c'était une crise un peu différente. Et ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire la dépense sociale, avait limité la récession. On avait chuté deux fois moins vite que l'Allemagne. Alors que là, on chute presque deux fois plus vite que l'Allemagne parce que c'est une crise profondément où l'économie s'est arrêtée brutalement. Sans doute l'a-t-on arrêté plus brutalement en France que dans d'autres pays. Sans doute étions-nous moins bien préparés à la chose. Sans doute avions-nous un peu moins d'indépendance. Donc tout cela joue et se cumule de façon tout à fait dramatique.
Et
alors,
Woerth,
il n'y a pas de fatalité.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui.
Il n'y a pas de fatalité. Il faut évidemment tenter de lutter contre cela, une fois qu'on est prévenu, entre nous, on le voit déjà arriver depuis maintenant plus d'un mois, un mois et demi, hein, y a rien de nouveau. Donc il faut lutter contre ça totalement. Par exemple, tous les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, ça fait 6 à 7 semaines qu'on a prévenu le gouvernement de cela, avant même que le moindre ministre n'en parle. Donc il y a 600 000, une génération de jeunes, c'est 600-700 000 personnes qui vont rentrer sur le marché du travail après des formations, de l'apprentissage, en passant par des études, enfin, donc qui arrivent sur le marché du travail à partir de l'été et de l'automne. Ils vont trouver porte close. D'ailleurs, même les stages, aujourd'hui, ne se font plus. Même des stages de validation de formation. Donc, il faut tout faire et tout mettre en œuvre. Nous, on a proposé, les Républicains et moi-même, nous avons proposé des réductions de coûts du travail, pouvoir embaucher avec au moindre coût du travail, prolonger, par exemple, la nature juridique des stages. Enfin, tout trouver autant d'idées qui permettent de laisser aux jeunes un pied à l'étrier dans le domaine du chômage. Puis les entreprises vont aussi reprendre avec beaucoup de parcimonie leurs salariés.
Oui, la reprise du travail, la reprise attendue aussi de la consommation, qui est un des éléments d'explication du taux de chômage, en tout cas de la situation économique du moment. Les mesures de chômage partiel, vous parliez de rigidité tout à l'heure, ont montré quand même la souplesse de l'État et puis sa prise en charge de la situation. Ces mesures de chômage partiel ont-elles permis quand même pour vous d'éviter pire situation encore, en préservant une partie
oui,
du capital humain?
Nous les avons votées, bien sûr. Vous avez raison, moi je les ai votées, les Républicains les ont votées, donc il n'y a pas de sujet. Sauf que comme elles sont beaucoup plus généreuses, entre guillemets, que pour beaucoup d'autres pays, on en sort beaucoup plus difficilement.
C'est ça.
Ça a été un filet de sécurité, ça devient peut-être un filet dans lequel on se prend les pieds. Ça veut dire que des entreprises qui ont un taux de croissance extrêmement faible aujourd'hui, réouvrent, cherchent leurs clients, ont consommé souvent leur stock ou terminé des carnets de commandes. Elles ont assez peu de choses devant elles. Elles vont prendre du temps pour reprendre des salariés qu'elles ont mis en activité partielle. Moi, j'ai proposé que, par exemple, on transfère une partie des crédits de l'activité partielle, c'est-à-dire une vingtaine de milliards d'euros par mois. Donc, c'est colossal. Qu'on en prenne la moitié et que l'autre moitié, on l'économise, mais qu'on prenne la moitié pour réduire le coût du travail pendant 5-6 mois pour inciter les chefs d'entreprise à reprendre des salariés plus vite que leur seule croissance économique, en prenant au fond un risque mesuré à reprendre des salariés. Et si on reprend 3 ou 4 salariés dans son entreprise et qu'on en avait 5 ou 6, ben si on reprend le cinquième, c'est déjà cela. Tout doit être fait pour accompagner une reprise plus rapide que celle que l'on connaît aujourd'hui.
Et il faut dire les choses, vous partagez ce langage de vérité, je crois, Eric Woerth, le choc sera considérable, ce sont les propos de Bruno Le Maire, et pour l'absorber forcément, il faudra faire fi des finances publiques, du déficit, de la dette. Ça, c'est à la fois inquiétant et incontournable, Eric Woerth.
C'est incontournable parce qu'il fallait substituer de l'argent public à une économie qui n'existait plus, donc une économie qui s'arrête, les gens sont chez eux, plus grand monde de produits. Sauf que l'industrie française, elle était arrêtée à 70% quand l'industrie allemande ne l'était qu'à 50%. Donc on voit bien qu'on a beaucoup plus de mal à redémarrer. Puis on a aussi entamé cette période de crise sanitaire dans un état de finances publiques et de dette qui était un état de faiblesse relative par rapport à beaucoup d'autres pays qui s'étaient réformer plus profondément et qui avait utilisé le temps de la croissance pour se réformer plus vite que nous. Donc on en paye les conséquences. Ça veut dire que on aura des déficits publics, tout tourne autour de 11%, je dois vous dire, au moins 11% de déficit, au moins 11% de récession, au moins 11% de chômage. Donc ces chiffres, ils sont inacceptables. Il faut tout faire pour les réduire. Donc d'abord le chômage, évidemment. Et puis ensuite, il va falloir s'attaquer à la dette des entreprises. On n'en parle jamais, mais la dette des entreprises, mais aussi évidemment
les
dettes
publiques. Qu'est-ce qu'on va en faire de la dette publique. Des entreprises? On l'effacera de fait.
Mais il faut des propositions, je pense, très, très fortes pour substituer des fonds propres ou des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des fonds que les entreprises n'ont pas remboursés ou alors à très très long terme, les substituer à de la dette. Parce que des bilans d'entreprises avec de la dette pendant longtemps, c'est des entreprises qui n'auront plus aucun moyen d'investir. Donc c'est, là aussi, c'est des sujets extrêmement, extrêmement importants.
Pour terminer.
Et puis pour les dettes publiques, il faut que les banques centrales suivent et puis il faut de la croissance. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts possible aujourd'hui. C'est une arme ou un outil qui a été
utilisé d'ailleurs,
jusqu'à la corde en France.
Oui. Éric Woerth, pour terminer, sans anticiper, parce que vous n'avez pas de boule de cristal, mais attendez-vous demain, justement, dans l'allocution du président de la République, un discours de vérité, là encore, et qu'il assume le choix d'un confinement long, mais d'une équation, ou 100 000 morts ou 1 million de chômeurs. Ça, c'était le choix terrible qui se portait à nous.
Bien sûr, c'est le choix de Sophie, le choix littéraire de Sophie. C'est en soi un choix impossible. À partir du moment où on était finalement peut-être moins bien préparé, on aurait dû être peut-être mieux préparé, qu'on était moins bien préparé à cela, il fallait évidemment confiner. Et le confinement, c'est pas... On voit bien d'ailleurs dans le déconfinement, c'est au fond tout ou rien. C'est très difficile d'avoir un confinement à moitié. Donc la question n'est plus, à mon avis, de se poser ce problème-là. C'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on accepte de dire que le risque zéro, il n'existe pas, vraiment, on fait repartir l'économie le plus vite possible en incitant au maximum au retour au travail et en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs économiques puissent reformer une chaîne qui a été brisée.
Encore fallait-il avoir l'expérience, évidemment.
C'est là-dessus, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de sang-froid, il faut beaucoup poser.
Merci.
Je voudrais qu'on soit aussi audacieux dans la reprise économique qu'on a pu l'être dans le blocage des Français chez eux.
Merci Éric Woerth, président de la Commission des Finances, député républicain de l'Oise, d'avoir analysé cette situation avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup.
Et le Grand Journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. Wendy, vous nous proposez de découvrir un livre.
Oui, entre thriller psychologique et saga familiale. On vous fait découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui l'aiment déjà, le style de Romain Sardou, dans un monde anglo-saxon. C'est sa matière romanesque et on l'écoute nous raconter son temps. A tout de suite.
La suite du Grand Journal du soir avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Il est maintenant 18h44 et comme chaque samedi, Wendy, vous partagez avec nous une découverte, une lecture ce soir avec votre invité en direct.
Oui, Romain Sardou est avec nous. Bonsoir Romain.
Bonsoir Wendy.
Avec l'objet qui nous réunit ce soir, votre nouveau roman paru chez IXO, Un homme averti ne vaut rien. Alors pour les auditeurs qui comme moi ont peut-être eu le plaisir déjà de lire votre saga America qui racontait en deux volumes le destin croisé de deux familles de pionniers américains, eh bien on retrouve une partie de ces personnages sans repère moral. Ce qui est intéressant avec vous, et c'est aussi de l'addiction liée à votre écriture, c'est que c'est tout le contraire. On est dans l'avidité, dans la vengeance, dans l'assassinat, dans la loi du talion. C'est un 21e siècle qui ne vous inspire pas que du bon, manifestement, pour ces héritiers de pionniers.
Ces héritiers de pionniers, oui. Mais en fait, ce livre était intéressant pour moi parce qu'il répondait aux deux premiers romans que j'ai écrits, dans le sens où, en fait, dans la duologie américaine, je racontais le début de ce pays. C'est-à-dire comment, en passant des colonies anglaises en Amérique, ils se sont révoltés, ils ont pris leur liberté. Et quels étaient leurs idéaux à l'époque? Ce qu'on appelle les idéaux des pères fondateurs de l'Amérique, qui ont porté ce pays pendant très longtemps. Ce qui m'intéressait dans ce roman qui se passe aujourd'hui, c'était de voir à quel point ces idéaux des pionniers ont été incarnés pendant très longtemps, mais aujourd'hui ressemblent un peu à des slogans politiques ou des slogans publicitaires. On n'est pas très certain que...
Facilement détournables.
Oui. Facilement détourné. Oui. Facilement détourné. Et c'est toujours un peu troublant parce que ça semble un peu un. je vais donner une image un peu forte, mais vous savez, c'est comme un peu les poulets à qui on a coupé la tête, qui continuent à avancer.
Oui.
Et la crise d'identité que peut connaître l'Amérique, la crise d'identité qu'on connaît nous aussi en Europe, c'est une période où les peuples s'interrogent beaucoup sur qui ils sont et d'où ils viennent, est assez frappante.
L'Amérique pétrie d'histoire, et c'est cette histoire que vous aimez aussi distiller dans vos romans. Ce rapport aussi donc, au passé, vous l'évoquiez, à la généalogie, à ce qu'il peut rester d'ancré chez nous, d'héritage, justement, mais d'intuition peut-être liée à cet héritage.
Oui, parce qu'on on a beau penser qu'on est totalement libre ou autonome, on reste le résultat de choses qui se sont passées avant nous, d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, ou même on est déterminé par notre famille, par notre pays. Il y a plein de choses en fait qui nous suit, qui nous accroche, qui nous forme. Et mes personnages ont ce poids-là avec eux. Certains l'acceptent, d'autres vont contre, se révoltent pour justement se reconstruire. Et ce qui vaut pour des parcours individuels vaut aussi pour les pays, vaut aussi pour des sociétés.
Complètement. On est dans la rencontre, dans le conflit de classe parfois. On n'est pas dans leur revendication aujourd'hui sociale ou raciale telle que nous la vivons aux États-Unis, mais aussi un petit peu en France pour partie. Il y a un réveil américain dont parle aujourd'hui Marc Lévy. Ce serait pour vous une source d'inspiration aussi possible, Romain Sardou, écrire sur les fait du moment, sur ce réveil aussi des consciences.
Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Mmh. J'aime beaucoup la partie historique dans le roman. Donc, je suis moins ancré sur la réalité. Je m'inspire moins des faits réels. Mais après, sur le réveil de l'Amérique, ce qui se passe en ce moment, ça s'est déjà passé. On peut remonter aux émeutes de Los Angeles en 92 et tout ça. C'est pas un réveil, c'est des soubresauts d'un réveil. Je ne sais pas où ça va aller aujourd'hui, l'histoire de Floyd. Il y en aura peut-être une autre encore dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est un processus lent, en fait. Un pays ne se transformera pas avec un coup de Twitter et une révolution dans la rue. Enfin, des protestations dans la rue, je veux dire. Il ne faut pas prendre ça pour un élément isolé. Les Américains, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur actualité. C'est pas nouveau ce qui se passe là. Donc, c'est pas un réveil soudain, c'est la continuité de soubresauts de réveil où ils prennent conscience de leur passé, ils prennent conscience de leurs erreurs, ils prennent conscience de voilà, c'est des fiertés qui se réveillent aussi. Enfin, voilà,
avec la manière dont ça s'exporte, et là vous évoquez les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un des médias, bien
voilà,
sûr.
C'est devenu un des médias très forts, mais voilà, c'est pas si nouveau que ça.
Il y a une
voilà.
écriture extrêmement efficace dans votre dernier roman, Romain Sardou, Un homme averti ne vaut rien. Vous faites naviguer vos personnages, et dans tous les sens du terme, de Londres à Boston. C'est un manque anglo-saxon que vous connaissez bien, vous connaissez la Floride, très bien la Californie, qui vous inspire aujourd'hui davantage que la France, Romain Sardou ?
Alors pas du tout. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi l'Amérique, pourquoi ce sujet m'a particulièrement intéressé, et principalement dans les deux précédents livres, les pionniers américains, les révolutionnaires américains, c'est que je me suis aperçu en étudiant ce peuple, en étudiant cette période et ces hommes et ces femmes de cette période, c'est-à-dire on est à 17e, 18e siècle, c'est qu'en fait leur revendication d'hommes libres, c'est-à-dire quand ils se sont battus contre les Anglais, quand ils ont voulu prendre leur indépendance par rapport au royaume britannique, leurs envies était très simple. Ils voulaient juste être libres, ils voulaient pouvoir posséder leur maison, ils pouvaient pouvoir voter, enfin élire leur représentant, ils pouvaient transmettre quelque chose à leurs enfants, ce qui nous paraît une évidence aujourd'hui. C'était une révolution à l'époque de penser comme ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que en lisant les journaux des hommes de cette époque, en lisant ce qu'ils avaient fait, en lisant les déclarations, je me retrouvais. Je me disais, tiens, mais je comprends ces hommes et ces femmes, je comprends leurs besoins.
Esprit, ouais.
Et ce qui m'a frappé, c'est que quand je faisais la même chose avec les révolutionnaires français, à la même période, j'avais pas cette même promiscuité. C'est-à-dire que c'était la Révolution française est très compliquée à côté de la Révolution américaine. Ce qu'ils voulaient était très simple, évident. En plus, on dit la Révolution française, mais il y en a eu plusieurs. Celle de 89, de 92, de 93, c'est pas les mêmes. Et ça m'a frappé cette modernité du pionnier américain, qui viennent de France, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de Hollande. Ces hommes-là ont un peu fondé l'individu libre moderne. Et en ça, voilà, ça m'a beaucoup frappé et beaucoup intéressé. Et je voulais raconter leur histoire parce que c'est un peu la nôtre.
Oui, et ce goût pour la grande histoire, ce goût pour l'écriture est évidemment manifeste. Romain Sardou, ce goût pour la bande dessinée, vous en avez publié plusieurs. Et elle accompagne ce roman, Romain Sardou, une BD qui explique la manière, le temps qu'il vous a fallu pour écrire un nouveau roman, 5 ans sans écriture. Et c'est votre fils qui co-scénarise cette BD. Vous aviez envie de l'entraîner dans cet univers.
Voilà, parce que c'était une idée de mon éditeur de faire cette petite bande dessinée qui est offerte à ceux, aux lecteurs
par les libraires. Allez, allez dans les librairies.
Où j'explique pourquoi je n'ai pas écrit un livre pendant 5 ans. Je n'ai pas publié de livre pendant 5 ans. Et là, mais en fait, ça raconte l'histoire d'un autre roman, qui est un roman qui aurait dû être celui-là, qui aurait dû être publié à la place de celui-là, qui est un roman policier où, en fait, j'avais tellement bien construit mon tueur que je n'arrivais plus à l'arrêter à la fin.
C'est intéressant, dépassé par sa créature.
À dépasser totalement. J'ai passé des mois à essayer d'arrêter ce malfaiteur. Et c'est mon éditeur qui m'a arrêté, d'ailleurs, qui m'a dit maintenant, tu arrêtes. De 2 ans et demi, c'est trop long. Passe à autre chose. Donc voilà, j'ai écrit Un homme averti ne vaut rien. Et je reviendrai sur mon tueur qui n'en a pas fini.
Il n'a pas fini. Une affaire de famille. En tout cas, vous êtes assis en studio à côté de Fabien Lecoeuf qui a écrit un sacré bouquin sur votre père, Michel Sardou, qui a dit il y a quelques mois sur une antenne concurrente, je hais cette époque. Vous le compreniez quand il dit ça ? Vous comprenez cette génération de la liberté à tout craint qui aujourd'hui se plaint d'une décélération de ses droits ?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'il y a des choses quand même formidables dans notre époque, même comparé à la sienne. Maintenant, après, quand je vois des choses comme récemment l'histoire de Autant n'emporte le vent, c'est sûr que je retombe un peu d'accord avec lui.
Oui, attention à l'épuration historique aussi.
Vous savez qu'au... au 18e, à la fin du 17e, au 18e siècle, en Angleterre, les Anglais avaient réécrit Shakespeare. Parce que le langage cru, les sentiments très, la violence de Shakespeare choquaient les pudibonds anglais de l'époque. Donc ils les avaient réécrits pour les mettre à leur sauce. Heureusement, ces tâcherons ont disparu et Shakespeare est revenu. Et pour Autant n'emporte le vent, écoutez, je suis assez optimiste parce que je pense que Autant n'emporte le vent, que ce soit le livre ou le film, sera encore là quand... tous ces cons n'y seront pas.
Voilà. Romain Sardou et son nouveau roman Un homme averti ne vaut rien. Je me suis régalée et j'engage les auditeurs à vous suivre chez XO Éditions. Et l'homme dont je parle, c'est Fabien Lecoeuvre qui nous accompagne aussi chaque week-end dans une chanson dans la tête. Merci beaucoup Romain de votre présence ce soir.
Mais une chanson dans la tête, c'est dans un instant.
Ouais, voilà, des chansons parfois sans équivoque de France Gall à Mylène Farmer ce soir. À tout de suite. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Merci.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce grand journal du soir. Il est avec nous notre encyclopédie de la chanson vivante, le sémillant Fabien Lecoeuvre, place à la musique pour une chanson dans la tête.
Et oui, Wendy Bouchard. Pour nous raconter les histoires qui se cachent derrière chaque chanson, vous avez été inspiré par le printemps, il était temps, vous aviez encore une semaine pour parler de la saison des amours et des chansons qui vont avec, Fabien.
C'est vrai Wendy, je vais vous parler aujourd'hui de toutes les chansons coquines ou à connotation érotique qui ont été créées à la fin du printemps ou au début de l'été, et qui sont devenus d'immenses succès populaires. Alors c'est une lointaine tradition française, puisque les chansons à double sens, et ce genre existe depuis l'époque des Kafkons, c'est-à-dire à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, sans remonter aussi loin, je vais évoquer aujourd'hui quelques chansons érotiques, caliente, qui font monter la température dès les premières notes, Wendy.
Et l'un des maîtres en la matière, évidemment, c'est Serge Gainsbourg. Hein.
Exactement, Wendy, puisque lui a repris cette tradition en écrivant pour lui et pour les autres quelques grandes chansons coquines et à double sens. Ça commence avec ce titre culte créé en 1965, Les Sucettes.
Un titre sorti en mars 66, écrit et composé par Gainsbourg.
Eh bien, et au moment justement où sort le disque, bien sûr, France Gall est victime de moqueries et d'attaques du journaliste, bien sûr, qui dénonce le double sens coquin de cette chanson jugée immorale. Mais alors, pour l'anecdote, France Gall n'évoquera jamais avec Gainsbourg cet incident. En revanche, quand on demandait à ce dernier quelques années plus tard pourquoi France Gall ne chantait plus Les Sucettes, il s'amusait beaucoup à répéter la réponse que France elle-même avait donnée à un journaliste qui lui posait la même question : ce n'est plus de mon âge.
Ça, c'était génial comme réponse. Gainsbourg qui fit chanter Régine, Bambou, Mireille d'Arc ou Jane, mais qui ne se priva pas non plus à titre personnel de reprendre ses chansons licencieuses, de la décadence à celle-ci.
D'abord je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées.
Love on the Beat, 1984.
Eh bien oui, Gainsbourg évoque sans tabou une relation sexuelle. Pour illustrer le tout, la chanson est jalonnée bien sûr de cris de jouissance de sa compagne Bambou, enregistrée, tenez-vous bien, à son insu. Ah, un débat amoureux, eh oui.
Ah, ouf,
le refrain jouant subtilement sur la sonorité du mot beat en anglais qui signifie rythme et son sens phonétique en français. C'est chanté par deux choristes masculins. Bien évidemment, au moment de la sortie du disque en octobre 84, la chanson jugée indécente et déviante provoque un petit scandale.
Oui, bah oui.
Mais ça n'a pas été interdit, on va dire, ni à la radio, ni à la télévision quand même. Serge Gainsbourg l'interprète régulièrement en playback.
Voilà, l'époque libre qu'on évoquait tout à l'heure avec vous, Romain. Gainsbourg n'est pas le seul à avoir fait des chansons érotiques. Avant lui, Monsieur Georges Brassens, bien sûr.
Oui, oui, parce que je vous propose justement une version très étonnante aujourd'hui de Fernande par Carla Bruni.
Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne bande plus.
Elle aime reprendre les classiques de Barbara Brassens, Carla Bruni.
Surprenant, étonnant. En octobre 72, Georges Brassens publie ce titre qu'il a créé lors de ses vacances dans sa maison de Lézardieu en Bretagne. Et c'est en se rendant chez un ami qui tient un magasin de sport à Paimpol que Brassens imagine cette chanson en conduisant sa voiture. Tout fier de son nouveau refrain, il le chante bien sûr à son ami qui... stupéfaction d'une cliente à un moment dans le magasin qui est en train d'essayer des chaussures.
Alors, pas de second degré ici, les paroles sont claires, plus connotées dans ce titre qui fit le succès de Lio, Banana Split. Banana. Nous sommes en 1979 avec la jeune Lio, Fabien Lecoeuvre.
Et c'est Jacques Duval et Jay Alansky pour lancer la jeune Lio. Imagine un départ, au départ de lui faire une reprise d'une chanson, on va dire, des Ike. Vous savez, c'est les célèbres choristes des Ike et Tina Turner. Ils choisissent le titre Peach and Cream qui parle de pêche Melba avec plein de sous-entendus érotiques. Et cela leur donne justement l'idée pour le texte français de transformer la pêche Melba en un autre dessert glacé. Tout aussi succulent et évocateur de plaisir, le Banana Split. Voilà, une chanson coquine et sulfureuse. Qui marquera vraiment son temps et on va dire son époque en tout cas.
Et puis on va terminer avec Mylène Farmer qui a aussi beaucoup joué sur l'érotisme en chanson.
Oui, on va écouter le troisième extrait de l'album Ainsi soit je de Mylène, paru en 88, sorti en single le 12 septembre, jour de son 27e anniversaire à l'époque.
Pas bien.
Ouais, pourvu qu'elle soit douce, connaît un succès immédiat et permet à la chanteuse de se retrouver pour la toute première fois à la première place du top 50 d'Europe 1 pendant 5 semaines consécutives. Le disque se vend à 700 000 exemplaires. Et c'est Mylène qui est bien évidemment l'auteur des paroles de cette chanson provocatrice qui vante les mérites de certaines pratiques sexuelles, car pour elle, et comme elle le dit dans le texte, dans Kama Sutra, à bien 100 ans d'âge, mon Dieu que c'est démodé, le nec plus ultra dans ce paysage, c'est d'aimer des deux côtés.
No comment, pour vous qu'elle soit douce. Fabien Lecoeuvre, sous le regard attentif de Romain Sardou. Vous en avez partagé les salons du livre ensemble,
oui,
Romain Sardou.
On a fait beaucoup de salons. Beaucoup, beaucoup.
Voilà. Ouais. Et ben, écoutez, merci d'avoir assisté à cette chronique en direct dans ce studio d'Europe 1.
Succulente.
Qui vous est merci. 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 Mais Fabien Lecoeuvre, on se retrouve demain.
Absolument.
Il est 19h.
C'est l'heure du journal.
Et bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h01, le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Wendy Bouchard.
On écoutait les discours et ça a pété vraiment tout seul. Il n'y a vraiment pas eu d'élan de violence ou quoi que ce soit. C'est ça qui nous choque, c'est qu'on n'a rien cherché en fait.
La détention ce soir, place de la République à Paris, en marge du rassemblement contre le racisme et les violences policières. Le cortège n'a pas pu défiler et rester bloqué place de la République.
Pour lutter contre les discriminations raciales, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye veut rouvrir le débat sur les statistiques ethniques, une boîte de Pandore pour certains qui mettent en garde.
À partir du moment où toute personne est obligée de se classer dans un groupe, ça devient dangereux, qu'on augmente le communautarisme.
À la crainte d'une nouvelle vague de Covid-19 en Chine, plusieurs quartiers de Pékin ont été reconfinés en urgence après la découverte d'un foyer épidémique. Correspondance à suivre dans ce journal.
Et puis le casse-tête des hôteliers, ils cherchent à faire revenir les clients dans leurs établissements qui restent vides.
Il n'y a pas de clients. Sur la côte, les hôtels en semaine ne fonctionnent pas du tout. Un petit peu les week-ends, depuis la levée des 100 km, c'est pas terrible du tout, quoi.
Nous sommes au cœur du Grand Journal sur Europe 1, ensemble jusqu'à 20h. Merci de votre fidélité.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Et ce samedi était une nouvelle journée de manifestation en France contre le racisme, contre les violences policières. Des rassemblements dans de nombreuses villes, mais le plus gros défilé était organisé à Paris, Sophie.
À l'appel du comité Adama Traoré, ce jeune homme noir mort il y a 4 ans après son interpellation par des gendarmes, 15 000 personnes, selon la police, sont restées bloquées toute l'après-midi par les forces de l'ordre, place de la République. Le cortège n'a pas pu défiler jusqu'à l'Opéra comme initialement prévu. Hélène Terzan, vous avez suivi ce rassemblement parisien pour Europe 1 et après des tensions, la situation commence à se calmer ce soir.
Oui Sophie, la manifestation touche d'ailleurs à sa fin. Les organisateurs invitent à quitter la place de la République. Mais il y a encore quelques minutes, la situation était bien plus tendue avec des face-à-face entre manifestants qui ont tiré quelques projectiles et forces de l'ordre qui ont répondu avec du gaz lacrymogène. Les membres du comité Adama Traoré ont d'ailleurs appelé au calme en faisant des tours de la place de la République debout sur leur camion.
On lâchera pas. Cessez les projectiles. On lâchera pas.
On ne lâchera pas. Justice pour Adama, pas de justice sans paix. Voilà les slogans scandés toute l'après-midi sur la place puisque le cortège n'a pas pu s'élancer. Sunshine regrette que la situation se soit tendue.
On est vraiment choqués parce qu'on était là-bas, c'était vraiment safe, on était ensemble et en fait on a entendu que ça pétait et en fait il n'y a vraiment pas eu d'élan de violence ou quoi que ce soit. On était vraiment tous, on écoutait les discours et ça pétait vraiment tout seul. On a vraiment, c'est ça qui nous choque, c'est qu'on n'a rien cherché en fait. Donc là on reste quand même pour montrer qu'on est là pour la paix et pour la justice.
À l'instant où je vous parle, il reste encore ici donc plusieurs centaines de manifestants. Ils leur ont demandé de quitter la place par l'avenue de la République, mais certains se sont assis par terre, encerclés par les forces de l'ordre.
Hélène Terzi en place de la République à Paris pour Europe 1.
Et c'est dans ce contexte que Sibeth Ndiaye propose, dans une tribune publiée dans Le Monde, de rouvrir le débat sur les statistiques ethniques.
Selon la porte-parole du gouvernement, cela permettrait de reposer la question de la représentativité des personnes de couleur dans la vie publique, politique, économique et culturelle de la France. Un débat qui revient régulièrement. De quoi s'agit-il exactement, Marion Gauthier, lorsqu'on évoque ces statistiques ethniques ?
Alors, il s'agit de collecter des données relatives aux origines ethniques de la population. C'est interdit par la loi Informatique et Liberté de 1978, à quelques exceptions près, notamment la recherche. Donc des études sont déjà possibles, mais l'état civil en France ne comprend que le nom, le sexe et l'âge, alors qu'aux États-Unis, chaque citoyen déclare aussi une catégorie ethnique. Pour la porte-parole du gouvernement, avoir des chiffres précis, mesurer la diversité, permettrait de lutter contre les discriminations, car cela empêche les fantasmes de prospérer, dit-elle. C'est un trop gros risque pour Hervé Lebras, démographe et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
S'il s'agit de faire des travaux de recherche, bien sûr, ça n'a pas d'implication sur l'image générale du pays. Mais à partir du moment où toute personne est obligée de se classer dans un groupe, ça devient dangereux parce qu'elle devient de plus en plus un membre de ce groupe et qu'on augmente le communautarisme. Mais aussi le danger que la majorité soit de plus en plus hostile aux minorités. Elle se reconnaît en tant que majorité, ce qui n'est pas du tout le cas en France actuellement.
Et autre problème soulevé par ces statistiques, la définition des catégories ethniques, souvent arbitraires. En Russie, il en existe plus de 150 et au Brésil, seulement 5.
Merci Marion Gauthier.
Faut-il rouvrir ce débat ? Nous mettrons face à face sur Europe 1 dans un instant l'avocat Gilles-William Golnadel et le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et dans deux semaines se tiendra le second tour des élections municipales, une campagne officielle qui débute lundi et qui s'annonce compliquée pour les Républicains à Marseille.
La candidate LR, Martine Vassal, est bousculée par des suspicions de fraude présumée aux procurations de vote. L'affaire a été révélée cette semaine par France 2 et Marianne. Et ce matin, Stéphane Frangis, son QG de campagne, a été perquisitionné.
Oui, une enquête préliminaire pour faux et usage de faux. Et cette perquisition à la recherche d'éventuelles procurations irrégulières vient semer le trouble. Le maire comme le préfet ont été saisis par les différents candidats aux municipales qui ne manquent pas de réagir. Le Rassemblement national parle d'assassinat de la démocratie et à gauche, eh bien, la tête de liste du printemps marseillais annonce un mouvement citoyen pour passer au crible les procurations déjà déposées en mairie. Pour toute réponse, Martine Vassal s'en tient à un communiqué publié sur Facebook où elle condamne ces pratiques si elles sont avérées. Nouveau chapitre d'une campagne électorale tendue dont le résultat devrait se jouer dans un mouchoir de poche après un premier tour marqué par une abstention massive et où la candidate LR est arrivée deuxième, doublée par la liste d'union de plusieurs partis de gauche.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. PSA revient sur sa décision après avoir annoncé que certains de ses salariés polonais viendraient travailler dans le Nord pour renforcer ses équipes du site d'Ordin. Le groupe automobile renonce à ce projet, une volte-face après que le ministère de l'économie est monté au créneau hier.
En Chine, la crainte d'une seconde vague de contamination au coronavirus à la une.
Après 2 mois sans nouveau cas, Pékin est en état d'alerte avec la découverte d'un foyer de contamination. Plusieurs dizaines de personnes ont été testées positives dans la capitale chinoise. À Pékin, la correspondance de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Une nouvelle fois, c'est un marché qui est à l'origine de ce rebond de l'épidémie. Cette fois, c'est à Pékin, la capitale. Au total, ce sont 7 nouveaux cas de contamination qui ont été enregistrés. On compte également plusieurs dizaines de cas asymptomatiques. À Pékin, le siège du pouvoir politique, les autorités ont immédiatement réagi. Le marché au gros de Fangtai, où le virus a été retrouvé sur un étal de poissons frais, les policiers militaires montent la garde. Le marché est fermé depuis 24 heures. 11 quartiers alentours ont également été confinés et des dizaines de milliers de personnes ont interdiction de quitter leur domicile. La mairie parle d'une zone de guerre. Les mots sont forts et les grands moyens ont été employés. Tous ceux qui ont visité le marché ces 14 derniers jours vont être dépistés. Le gouvernement chinois a pour lui une arme de choix, le code électronique, que l'on scanne avec son téléphone portable. Indispensable pour accéder au marché. Il doit permettre de remonter le fil des possibles contaminations. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
En France, nous suivrons demain soir à partir de 20h la prise de parole d'Emmanuel Macron qui s'exprimera sur la phase 3 du déconfinement. De nouvelles restrictions vont être levées, notamment pour la circulation dans l'espace Schengen.
Oui, la situation est très difficile pour les hôtels. Durant le confinement, ils étaient autorisés à rester ouverts mais n'avaient aucun client. À présent, ils tentent d'accueillir de nouveau du public mais c'est loin d'être chose facile, Carole Ferry.
Le pire, c'est à Paris. 24% des hôtels seulement sont ouverts, avec un taux de fréquentation de 10%, un client sur 10. Les touristes étrangers sont absents, les voyages d'affaires n'ont quasiment pas repris. En zone verte, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir ouvert, 63%, avec de fortes disparités toutefois suivant le type d'hôtellerie. 20% seulement des hôtels de luxe sont ouverts, contre les 3/4 des hôtels super économiques, qui accueillent surtout les ouvriers du bâtiment. Quelle que soit la gamme, la clientèle fait défaut, avec un taux de fréquentation de 35% en moyenne. Même la levée des 100 km n'a pas poussé les Parisiens vers les côtes normandes, entre Honfleur et Cabourg, selon le président de l'UMI Calvados, Yann France.
Il n'y a pas de clients, quoi. Donc sur la côte, les hôtels en semaine ne fonctionnent pas du tout. Un petit peu les week-ends, depuis la levée des 100 km. Mais bon, comme vous le voyez si bien, on a du mauvais temps, alors qu'on a eu un temps sensationnel, exceptionnel durant tout le confinement, et là on a vraiment pas de chance à ce côté-là, c'est pas terrible du tout quoi.
Et c'est encore pire un peu plus bas sur les plages du débarquement qui attirent normalement beaucoup de touristes américains. Certains hôtels ont même décidé de refermer leur établissement et ne sont pas certains d'ouvrir cet été.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Merci Sophie Tusson, on vous retrouve à 19h30 pour le rappel de l'actualité. Petit point météo avec un ciel qui se calme, un chouïa demain Valérie.
Et oui, des Pays de la Loire aux côtes de la Manche, c'est l'endroit où le ciel va rester menaçant. Mais de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien et le massif central, le risque d'averse est beaucoup plus faible, voire inexistant. Il fera entre 20 degrés, en revanche, au pied des Pyrénées, et 25 dans la région de Lille. C'est peu et c'est trop bas pour la saison, bien sûr. Le ciel est menaçant aussi sur la façade est, sur les frontières uniquement, les reliefs, avec des ondées ici ou là. Sur les régions méditerranéennes, net amélioration avec le retour d'un temps assez bien ensoleillé au prix d'un mistral et d'une tramontane qui souffle jusqu'à 70 km/h en rafale et les maximales sont de saison.
La météo signée Valérie Darmon. Europe 1, 19h11. Dans un instant, Wendy Bouchard, notre débat, la France est-elle raciste ?
Faut-il revoir la représentativité des personnes de couleur dans la vie publique ? Faut-il rouvrir le débat sur les statistiques ethniques, comme le suggère la porte-parole du gouvernement ? Eh bien, ce soir sur Europe 1, nous mettons face à face l'avocat Gilles-William Goldnadel et le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Restez avec nous.
19h14, on vous retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1. Et dans l'actualité, la poursuite des manifestations à l'appel du comité Adama Traoré contre les violences policières.
Manifestations un peu partout en France, l'une d'elles interdite à Paris en raison du contexte sanitaire, mais qui aura réuni tout de même 15 000 personnes bloquées place de la République par la police. On en parlait à 18h15 et la dispersion est en cours en ce moment. Pour réagir à cette actualité et à ce qui en découle, notamment la suggestion de Sibeth Ndiaye de rouvrir le débat sur les statistiques
ethniques. J'accueille ce soir Maître Gilles-William Golnadel, avocat, essayiste, président d'Avocats sans frontières, et Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors que la sœur d'Adama Traoré a appelé à marcher aujourd'hui encore, je cite, pour dénoncer le déni de justice, la violence sociale, raciale et policière. C'est un mélange de causes dont on a du mal à lire aujourd'hui la ligne, Maître Golnadel.
Écoutez, avant toute chose, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre journal, j'espère que oui, je voudrais dénoncer les cris antisémites qui ont été entendus, les cris de mort aux Juifs,
oui, nous en avons parlé.
Palestine vaincra, mm-hmm. qui ont été entendus lors de cette manifestation, je les ai posés moi-même sur Twitter, donc ils sont incontestables. À 17h30, un communiqué de la préfecture de police les a évoqués et a indiqué qu'ils saisissaient la justice. Je trouve pour l'instant les réactions médiatiques extrêmement timides, et ça me permettra de vous dire qu'on est dans un drôle de monde où un comité Traoré évoque une affaire dans laquelle le racisme aurait lieu. Moi, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant dans la procédure judiciaire le moindre élément qui pourrait l'accréditer. Je vois que la famille Traoré est quand même une famille qui pose quand même beaucoup de problèmes à Beaumont-sur-Oise. Et par contre, lorsque vous avez des faits avérés, quand même tout de même assez grave. Moi, je n'arrive pas, si vous voulez, à me faire qu'en plein Paris, on puisse crier mort aux Juifs. Et donc, à travers cet incident, on voit bien qu'il y a des choses qui sont minimisées et des choses qui sont au contraire maximisées.
Oui,
Pardon de commencer par cet incident, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'antiracisme d'aujourd'hui, qui est pour moi en vérité un pseudo-antiracisme. Et en réalité, on s'aperçoit que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, il n'y a pas eu meilleur pour faire du racisme que le prétendu antiracisme.
Mais vous avez raison de souligner cet état de fait, William Golnadel. Dominique Sopo, avez-vous vous-même pris des distances par rapport à ce comité Adama Traoré, qui a d'ailleurs qualifié votre mouvement SOS Racisme d'antiracisme folklorique, alors que vous étiez vous-même à l'instigation, à l'initiative d'une manifestation samedi dernier en soutien à cette famille contre les violences policières, Dominique Sopo.
Alors, mardi dernier, pour le coup.
Mardi dernier.
Et samedi dernier, dans toute une série de villes de province contre les violences policières, le racisme au sein de la police et ailleurs dans la société. Écoutez, vous savez, moi je ne vais pas répondre à des polémiques ou à des attaques, comment dire, avec des gens qui expliquent qu'il ne faudrait pas manifester mardi en hommage à George Floyd. Je pense que au-delà du cas de Adama Traoré, qui est un cas sur lequel il y a une exigence de justice qui est tout à fait d'ailleurs entendable
oui.
et tout à fait normale. Je pense qu'il y a une problématique dans notre pays de violence policière, bien évidemment. On l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, et le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'il y avait une problématique.
Oui, mais là, on mélange tout manifestement dans le cortège de
racisme. Mmh. Et je termine. Une problématique de racisme dans la police, manifestement, avec des avalanches de révélations ces derniers jours.
Oui.
ou ces dernières semaines, qui méritaient mieux que les dénis tenaces de Christophe Castaner jusque quasiment à sa conférence de presse d'il y a quelques jours.
Oui, mais vous avez parlé des slogans, Maître Golnadel, des statuts qu'on veut déboulonner, de l'histoire qu'on veut réécrire. En fait, en France, on ne peut pas avoir de débat posé sur le sujet. Le contraire du racisme, c'est forcément le racisme anti-blanc, Maître Golnadel.
Non, écoutez, bon, d'abord, je ne sais pas quelle polémique Monsieur Sopo fait allusion. Je
vous pouvez répondre, Dominique Sopo.
Je ne parle pas de vous, Monsieur Golnadel, tout n'est pas autour de vous, par ailleurs.
C'était pour mieux comprendre à quoi vous faites allusion. Si vous voulez, moi, je dénonce depuis longtemps, encore une fois, un pseudo-antiracisme qui est maintenant névrotique et alimenté, évidemment, par le monde médiatique. Moi, la question du racisme, je la connais depuis trop longtemps. Je dis simplement, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller à des manifestations interdites, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas au nom de quoi la famille Traoré devrait être dispensée de respecter la loi. Troisièmement, si vous voulez, je considère comme une abomination de mélanger l'affaire Floyd qui est dit indiscutable à l'œil nu, je dis bien à l'œil nu, on l'a vu. Malheureusement, le calvaire de George Floyd, il est indiscutable à l'œil nu, avec une affaire Traoré qui, pour l'heure, alors que la justice est saisie, a donné lieu à 3 rapports d'expertise judiciaire qui jusqu'à maintenant relaxent les gendarmes, et plusieurs expertises privées payées par la famille Traoré qui disent le contraire.
Oui, alors est-ce qu'il faut dépasser ce débat, Dominique Sopo, et ouvrir, comme vous le souhaitez, un chantier sur les violences policières?
C'est quand même assez extraordinaire. C'est le fait qu'on fait comme si la problématique, c'était l'affaire Traoré.
Bah oui, parce que c'est le comité d'Adama Traoré qui médiatise, au fait.
Oui, oui, peut-être, mais j'allais dire, la question du racisme dans la police, la question des violences policières, ne se réduisent pas, quoi qu'il en soit, quoi que l'on pense de ce dossier, à l'affaire Traoré. Quand il y a des groupes Facebook avec des milliers de personnes qui postent ou échangent des messages racistes, lorsqu'il y a des groupes WhatsApp avec des propos racistes et antisémites, lorsqu'il y a des policiers d'origine maghrébine et subsaharienne qui dénoncent anonymement, parce que manifestement ils ne peuvent pas le faire de façon non anonyme auprès des médias, le racisme qu'ils subissent eux-mêmes dans la police ou qu'ils constatent, il y a un chantier à ouvrir. Donc, on peut toujours expliquer tel ou tel élément sur le dossier d'Adama Traoré, mais en fait, il y a une forme de comme s'il y avait une forme de volonté de ne pas ouvrir un chantier qui est un chantier très important, parce que lorsque l'on dit que l'on veut faire vivre pleinement la République, eh bien, il faut faire en sorte que la police nationale soit une police dans laquelle il y a un travail sérieux qui est fait sur les problématiques qui se révèlent ces dernières semaines, même si ce sont des problématiques qui sont dénoncées depuis très longtemps, mais pour lesquelles il y avait quasiment une impossibilité d'avoir du débat médiatique et politique.
Certes, mais vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, le comité Adama Traoré a quelque peu phagocyté ce débat. C'est peut-être ce que vous déplorez, Maître Goldanel, alors qu'il y a de vraies questions derrière, et récupérées d'ailleurs par la porte-parole du gouvernement, qui demande peut-être la réouverture d'un débat sur les statistiques ethniques aujourd'hui.
Mais écoutez, qu'est-ce que je vous dise, moi, c'est pas de ma faute si c'est l'affaire Adama Traoré, qui est rien moins qu'évidente, qui est montré comme exemple du racisme dans la police française. Je ne vais pas caricaturer ma propre pensée. Bien entendu qu'il y a des policiers racistes, comme il y a des avocats racistes, comme il y a des bouchers racistes. Le racisme, c'est quand on veut avoir une idée de l'équité, le racisme, c'est une chose très bien partagée et par tous les peuples de la planète. Hein. Et les Français n'ont certainement pas le monopole. Bien au contraire, parce que je trouve, même s'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ont fait montre ces dernières années d'une immense hospitalité. Donc je trouve.
Vous voulez dire que c'est contre-productif que cette famille soit portée aujourd'hui au cœur de la médiatisation ?
Mais bien entendu que c'est contre-productif, voyons. Et de la même manière qu'a été complètement contre-productive la sortie de Camélia Jordana sur le fait qu'on massacrerait que les flics. Massacrerait pour une question de couleur de peau. Mettez-vous à la place des policiers qui ne sont pas tous des pianistes distingués et pour ne pas être racistes qui ont un épiderme aussi sensible que le mien ou le vôtre, vous croyez que ça agit dans le sens des bonnes relations entre les jeunes des banlieues qui ne sont pas tous des angelots et les policiers qui vivent dans des conditions épouvantables? Ce genre de sorties qui sont en vérité, par leur généralisation, des sorties racistes.
Dominique Sopo, sur ce point, pour terminer.
Oui, enfin, d'abord, les généralisations racistes, parce qu'on critique la police de façon générale, je pense que ces amalgames sont un peu nauséabonds, me semble-t-il. Mais, à un moment donné, il y a une problématique. La problématique, soit on est capable de l'affronter, soit on tourne autour où on essaye de faire de la diversion pour ne pas l'affronter. La République, elle doit se comporter, notamment à travers ses fonctionnaires, de façon irréprochable. Et
donc
être policier,
on gouverne à l'émotion, comme le dit Nicole Belloubet ou Christophe Castaner.
Je tenais juste à dire quelque chose. On parle des autres corps de métier. Policier, c'est pas n'importe quel corps de métier. Policier, c'est pas fleuriste. C'est pas les mêmes conséquences d'avoir du racisme dans la police ou d'avoir du racisme chez les fleuristes. À un moment donné, il faut être aussi un peu sérieux par rapport aux implications que cela peut avoir dans la vision de la République et dans les relations au sein d'une société.
Merci Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et merci Maître Gilles-William Goldnadel, avocat et président d'Avocats sans frontières, voilà, de ce débat d'idées ce soir au cœur de l'actualité sur Europe 1. Merci messieurs.
Merci.
Et le Grand Journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard.
Et voici l'écho de la planète, le journal de l'environnement que nous présente chaque samedi Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, la pollution de l'air a repris presque comme avant à 80%, nous dit Air Paris. Qui a abattu l'ours retrouvé mort cette semaine en Ariège? L'ONG Sea Shepherd offre une récompense de 10 000 euros qui fait enfler la polémique. Et puis le retour des dauphins sur la côte atlantique et pas seulement des dauphins.
On va commencer avec ce constat autour des émissions de polluants qui avaient été divisées par 4 pendant le confinement. Eh bien voilà que nous sommes quasiment revenus, Virginie, au niveau d'avant.
Oui, l'arrêt des émissions donc de la pollution avait été brutal. La reprise est progressive, mais on est déjà revenu à 80% des émissions habituelles. En ce qui concerne les oxydes d'azote, c'est le polluant essentiellement émis par les voitures et les camions, et les particules fines et même très fines, et jusqu'à 90% sur le boulevard périphérique parisien. Et à Paris, les habitants le sentent assez nettement.
Ce matin, ce que j'ai remarqué pour la première fois depuis très longtemps, c'est que le ciel n'était plus aussi bleu qu'il l'était lors du confinement. Le ciel est un petit peu plus gris, j'ai même pensé que c'était des nuages. Et en regardant de plus près, on voit une espèce de couche, un peu comme une espèce de couverture. Et là, on se rend compte que c'est la pollution.
Ça fait bizarre, oui. Enfin, bon, on sent que ça va aller dans le mauvais sens. Je reprends le vélo sur Paris là, enfin, pour la première fois. Et puis, y a de la voiture, il y a les vapeurs de pots d'échappement. Quoi. C'est dommage, oui, c'est triste, oui. Mais bon, d'un autre côté, on peut pas faire autrement. Hein. Parce qu'il faut bien relancer l'industrie, il faut bien relancer la machine.
Témoignage recueilli cette semaine à Paris par Justin Morin. Alors, c'est 80 à 90% des émissions habituelles. Ce sont les chiffres de l'association Air Paris, oui. Donc pour l'Île-de-France. D'accord. Mais les autres organismes de surveillance de la qualité de l'air en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine observe aussi une remontée très forte de la pollution, sans encore revenir complètement au niveau d'avant le confinement.
Oui. À la une également, Virginie Salmen, dans cet écho de la planète, on se souvient, c'était en 2004, hein, des larmes de Jacques Chirac à l'annonce de la mort de l'ours Canel. Eh bien, la mort d'un jeune ours brun, cette semaine, y fait forcément écho.
Oui, Canel était la dernière ours de souche pyrénéenne. Cette fois, c'est un jeune mâle de 150 à 200 kilos qui a été retrouvé tué par balle en Ariège, près de la station de ski de Guzet. Celui-là n'avait pas de prénom, il fait partie des 50 ours des Pyrénées. Ils ne sont donc pas assez nombreux pour assurer la survie de l'espèce protégée. L'État a décidé de porter plainte. Le procureur de la République de Foix estime que c'est un acte d'une grande gravité et il affirme que tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier le ou les auteurs. Mais l'ONG Sea Shepherd a trouvé un moyen plus pragmatique, digne des affiches Wanted au Far West. Elle offre une récompense de 10 000 euros pour motiver ceux qui auraient des informations permettant de faire avancer l'enquête.
Et puis on va terminer avec le conseil de votre copine Catherine, comme chaque semaine.
Oui, il y a pile un an, Catherine pleurait parce qu'elle avait découvert un dauphin mort sur la plage de Lafitenia à Saint-Jean-de-Luz, d'où elle est originaire, lardée des blessures d'un chalut pélagique. C'était l'un des 1200 retrouvés l'année dernière. Ça l'avait traumatisée à tel point qu'elle avait décidé de ne plus manger que du poisson pêché de manière éco-responsable, puis plus de poisson du tout, pour ne pas encourager la pêche avec ce filet très dangereux pour plusieurs espèces, dont les dauphins. Mmh. Elle avait glané quelques chiffres au passage qui l'ont encouragée dans sa décision. 40% des espèces marines en moyenne ont disparu en 40 ans. 70% des gros morceaux de plastique retrouvés dans la mer sont des résidus de pêche, de filets ou de casiers. Depuis, la pêche au chalut pélagique, ce fameux chalut, a été interdite au moins dans une zone du golfe de Gascogne, le plateau de Rochebonne. Alors, voici la bonne nouvelle. Les dauphins sont de retour. Un équipage basque, celui de Litzasmendi. On a filmé cette semaine des dizaines au large de Guétari, toujours dans le Pays Basque. Un banc de dauphins en train de nager et même 4 baleines. De quoi mettre du baume au cœur de Catherine Margne.
Ouais, on vous encourage aussi à voir sur notre site europe1.fr ces vidéos que vous a transmises Catherine et qui, en effet, mettent du baume au cœur. C'est un beau spectacle de voir ces animaux, dauphins et baleines près de ce bateau. Merci beaucoup Virginie Salmen pour cet écho de la planète. Vous revenez samedi prochain sur Europe 1.
Oui, bonsoir.
Et le Grand Journal du soir se poursuit dans un instant, Wendy, avec l'essentiel de l'actu. Et puis Frédéric Dabi.
Oui, l'œil de Frédéric Dabi, ce directeur général adjoint de l'IFOP, ce sera avant notre invité qui se demande si on n'a pas trop négligé, voire maltraité, le monde des soins à domicile pendant la crise du Covid. On a beaucoup parlé du personnel soignant hospitalier, de la médecine de ville, mais peu de ceux qui soignent à la maison. Hélène Rossino sera avec nous ce soir. A tout de suite.
19h30, le Grand Journal du soir. La suite, Wendy Bouchard.
Nous sommes le samedi 13 juin. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité avec Sophie Tussaud.
Des manifestations partout en France pour protester contre le racisme et les violences policières. À Paris, après des tensions entre manifestants et la police, la situation revient progressivement au calme. Le cortège n'a pas pu défiler cet après-midi. Plus de 15 000 personnes qui avaient répondu à l'appel du comité Adama Traoré sont restées bloquées place de la République. Le début du rassemblement parisien a été marqué par le déploiement d'une banderole du groupe Génération Identitaire pour dénoncer le racisme anti-blanc. 12 personnes ont été interpellées. En parallèle des manifestations aujourd'hui en France, le Conseil d'État lève ce soir l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Elle avait été imposée dans le cadre de l'urgence sanitaire. Rouvrir le débat sur les statistiques ethniques, c'est ce que suggère Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, et ce afin de lutter contre les discriminations raciales. PSA renonce à faire venir travailler sur son site du Nord certains de ses ouvriers polonais. Après que le gouvernement est monté au créneau hier, Carlos Tavares, le patron du groupe automobile, annonce qu'il abandonne le projet. Et puis la crainte d'une nouvelle vague de contamination en Chine. Plusieurs dizaines de personnes ont été testées positives à Pékin. 11 quartiers de la ville ont été reconfinés en urgence.
À tout à l'heure, 20h pour nous informer, Sophie Tussaud, merci.
Et voici maintenant l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
L'analyse, l'enquête de société chaque samedi sur Europe 1. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors que l'annonce de l'allocution d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et ce n'est pas fini, vous nous dressez un constat finalement. À quelle France va s'adresser demain le président de la République ?
Alors c'est une France, Wendy, qui retrouve un certain optimisme avec des indicateurs qui sont au vert. Un reflux de l'inquiétude sanitaire, on mesure cet indicateur chaque semaine depuis le mois de janvier. Il est au plus bas depuis fin février, depuis l'avant-confinement. De la même manière, pour la première fois, une majorité de Français déclare faire confiance au gouvernement dans une enquête IPOP fiduciaire pour CNews, pour garantir la réussite du déconfinement. Il y a un vrai contraste avec la défiance qu'on a vue tout au long du confinement. Pour autant, l'inquiétude est massive, quelle que soit la catégorie de population, à l'égard des conséquences économiques de la crise. Des Français ont très fortement intériorisé le retour d'un chômage de masse. On n'est pas du tout dans la crise qui avait saisi par surprise les Français en 2008.
On est vraiment là dans l'impact de la crise sur l'économie réelle. Est-ce qu'au fond, le discours du président, quel qu'il soit d'ailleurs, n'apparaît pas un peu déconnecté de cette réalité critique que traversent en ce moment les Français ?
Oui, c'est vrai que c'est aussi l'exercice qu'il le veut. Il y a une pertinence d'une prise de parole présidentielle. Il y a une allocution attendue pour solder la crise du Covid, pour accélérer le déconfinement. C'est aussi un moment où Emmanuel Macron va lancer la dernière ligne droite du quinquennat en donnant un cap. Mais cet exercice obligé pour un président de la République, donner des perspectives à long terme, restera sans doute insuffisant pour gommer les faiblesses perçues dans l'opinion d'Emmanuel Macron.
Pensez PENSER et penser aussi les plaies de l'après-Covid, avec quel argent, avec quelle force vive, on verra, on n'est pas trop dans l'expectative avec vous. Il y a eu quand même beaucoup de délire médiatique entre guillemets cette semaine. La France aujourd'hui, les Français ne s'inscrivent pas véritablement dans un après-Macron, ça relève du fantasme pour vous et selon vos enquêtes, Frédéric ?
Oui, complètement, et je relève de manière positive votre terme délire. C'est vrai qu'il y a eu toute une série de commentaires, de supputations médiatiques, une certaine hystérie dans les réseaux sociaux. Les Français ne s'inscrivent pas dans l'après-Macron comme ils ne s'inscrivaient pas en 2010, malgré la crise, dans l'après-Sarkozy. Clairement, regardons de près différents indicateurs. Le socle de popularité d'Emmanuel Macron reste appréciable, supérieur à l'avant-crise. Il était à 33% de bonnes opinions ou de satisfaction en février-mars. Il est maintenant à 40%. Son cœur électoral tient chez les personnes âgées, chez les catégories sociales supérieures, dans son électorat de 2017. Et puis surtout, dans un moment de crise, on voit qu'il n'y a pas de réceptacle au mécontentement à l'égard du président. Quand on interroge les Français dans une enquête pour le JDD, on voit que personne ne ferait mieux que lui. Mais bien sûr, Emmanuel Macron reste plus que jamais perçu comme déconnecté de la réalité vécue par les Français, quand à même, la différence de son Premier ministre. Et on voit aussi que sa parole imprime moins. Sa parole est moins retenue par les Français. J'ai été frappé, Wendy, dans les dernières conversations dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, du fait que les sujets qui concernaient directement Emmanuel Macron, à savoir la signature d'un pacte de relance européenne pour dans de 500 milliards avec Angela Merkel, l'affaire plus anecdotique de la réouverture du Puy du Fou, étaient des sujets qui étaient les moins mémorisés par les Français. C'est dans ce cadre-là qu'Emmanuel Macron joue quand même un moment important lors de cette allocution de dimanche prochain.
C'est intéressant parce qu'à la fois la parole présidentielle n'imprime pas, n'imprime plus, et pourtant il n'y a jamais autant de Français derrière leur écran de télé ou leur radio pour suivre ce type de discours présidentiel. Rappelez-nous les chiffres de la fois dernière, c'était hallucinant.
C'était 37 millions. C'est vrai que par le passé, on avait tendance de dire de manière un peu mécanique une allocution présidentielle, n'inversez pas, ne changez rien, une situation de popularité ou d'impopularité. On a bien vu lors de l'annonce du mois d'avril, lorsque Emmanuel Macron annonce le déconfinement pour le 11 mai, à quel point les lignes avaient bougé. Ce qui va être compliqué, ce qui va être plutôt compliqué pour lui dans cette allocution de dimanche, c'est à la fois de mettre en avant des perspectives de long terme, c'est le rôle du président, mais aussi également s'inscrire sur le court terme, répondre à l'angoisse des Français, notamment sur le chômage, sur la reconstitution d'un système de santé. Et moi, personnellement, je m'interroge sur le choix du médium, sur le choix qui est
présidentielle, ouais.
Voilà, de s'adresser aux Français. C'est une fois de plus, comme lors des 4 dernières interventions, une allocution solennelle qui sera sans doute longue, ça sera une critique qu'on lui fera, qui peut-être, sauf si elle a des annonces fortes, ne sera pas fortement mémorisée. Et on se souvient qu'Emmanuel Macron avait été beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus percutant dans des échanges avec des journalistes, par exemple en 2018, au moment de ses un an de mandat, notamment avec Jean-Pierre Pernaut ou Edwy Plenel. Il ne recourt plus à ce type de médium pour s'adresser aux Français par l'intermédiation des journalistes. C'est peut-être une erreur parce que c'est peut-être ça qui pourrait lui faire regagner de la proximité ou de l'authenticité.
Oui, et ça traduit tout de même sa posture, son style aussi, seul dans la tempête. Voilà pour votre œil politique cette semaine. Mais vous êtes arrêté également, Frédéric Dabi, et ça c'est votre œil d'amateur qui l'a crypté sur une annonce d'un champion de tennis, Roger Federer, qui met genou à terre.
Exactement, genou à terre. Il doit de nouveau se faire réopérer avec une arthroscopie et il a annoncé l'arrêt de sa saison 2020. Alors c'est vrai que cette saison 2020 est une saison quasi blanche pour le tennis mondial, mais là aussi, des supputations, des hypothèses ont été relancées sur une retraite de Roger Federer. Quelle crédibilité d'un retour l'année prochaine, l'année de ses 40 ans. Toutes les grandes légendes de tennis, hein, j'ai regardé, sauf Ken Rosewall, l'Australien dans les années 60, ou Jimmy Connors, plus près de nous, avaient toutes pris leur retraite avant l'âge canonique, si je puis dire,
oui,
de 40 ans.
Ouais, mais tout est possible pour un sportif de cet acabit, vous me direz.
Bah oui, c'est un diable d'homme, comme on disait de Voltaire à une époque. Un monde du tennis sans Roger Federer, c'est un drame pour beaucoup. Et tout est possible avec lui. Il a toujours su imposer son calendrier, son agenda. Rappelez-vous, et les amateurs ou les fans de Roger Federer le savent bien sur Europe 1, son comeback en 2012 quand il gagne Wimbledon, son comeback après 6 mois d'arrêt en 2017 lors de cette finale absolument dingue face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Tout est possible avec Roger Federer, mais là, il serait une fois de plus à bousculer toutes les statistiques du tennis.
Merci Frédéric Dabi pour cet œil aiguisé chaque semaine sur Europe 1. On vous retrouve la semaine prochaine et dans le débat des grandes voix aussi avec Nathalie Lévy.
Avec plaisir, merci à tous.
19h38, Wendy Bouchard, la suite de ce programme.
Eh bien, la crise sanitaire a mis en lumière les failles du système de soins à domicile. On va parler des aidants, des professionnels comme les aides-soignants oubliés, avec la spécialiste de santé publique Hélène Rossineau qui publie un livre comme un cri. Veut-on encore un monde hors de l'hôpital ? À suivre.
Le Grand Journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Et comme chaque semaine, avec Affaires à suivre, on suit des dossiers pour être au plus près des réalités.
Oui, Marlène est à l'aube d'un nouveau plan de refonte du système de soins. Vous posez la question sur Europe 1 et dans votre livre, Hélène Rossineau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous qui êtes spécialiste de santé publique et de médecine sociale, veut-on encore d'un monde hors de l'hôpital ? C'est aux éditions de l'Observatoire. Et vous alertez sur la manière dont tant de professionnels de santé ont été traités pendant l'épidémie et pendant le confinement. Vous parlez des aidants, des soignants libéraux ou en EHPAD, des responsables des services d'accompagnement, tous ceux qui officient en fait hors de l'hôpital.
Tout à fait. Moi, j'ai vu une différence assez exceptionnelle et d'ailleurs, nombreux sont les soignants qui me l'ont fait remarquer, avec cette impression de ne même plus appartenir à la même famille de soignants. Mmh. Une famille de soignants de l'hôpital, une famille de soignants du domicile. Ceux qui n'ont pas eu les masques en priorité, ceux qui ont dû fabriquer leurs surblouses avec des sacs poubelles, des aidants qui ont été complètement abandonnés alors qu'ils étaient censés être prioritaires d'après le plan en octobre dernier lancé par le Premier ministre et qui là ont disparu même des discours officiels. Vraiment, on a eu l'impression, comme le dit Françoise dans ce livre, que le domicile n'existait plus pendant ce confinement.
Oui, et vos propos sont tout à fait corroborés par ce qu'on a appris aujourd'hui. L'entrée en vigueur de la prime exceptionnelle qui sera versée au personnel hospitalier et aussi au personnel des EHPAD, tout de même, de 1 000 à 1 500 euros, selon les départements, en récompense de leurs efforts. On ne parle pas de tout le monde qui a officié comme soignant à domicile, précisément, avec cette prime.
Et non, on n'en parle pas malheureusement. On en parlait déjà très peu avant. Hein. Les auxiliaires de vie, les aides-soignantes sont souvent des grandes oubliées, EES, hein, parce que bien sûr, ce sont quasiment toujours des femmes. Et puis, j'imagine mal, malheureusement, une prime pour les aidants. Hein, les personnes qui prennent soin d'un de leurs proches, qui ne sont pas considérés comme des soignants et qui, pourtant, sans ces personnes, le système n'aurait pas pu tenir, et encore moins pendant cette crise du Covid.
Bien sûr, ils ont été en première ligne aussi. Hein. C'est 11 millions d'aidants qui prennent soin d'un proche âgé, malade, handicapé. Vous leur avez dédié un livre et ils ont été aussi au cœur de cette crise.
Tout à fait, parce que beaucoup de patients ont été renvoyés à domicile. Des patients, par exemple, qui étaient en rééducation, qui ont été renvoyés chez eux avant la fin de la rééducation pour libérer les soignants, justement pour être redirigés sur la prise en charge du Covid. Mais chez qui ont été renvoyés ces patients ? Ils ont été renvoyés chez les proches, oui, qui les ont récupérés en catastrophe. Si les aidants n'avaient pas été là pour prendre soin de leurs proches, ces proches auraient également été à l'hôpital. Et en plus, ce sont souvent des proches qui sont vulnérables. Donc, c'était des proches qui étaient très à risque du Covid.
Il était légitime, oui, allez-y, Hélène Rossino.
Ces aidants, personne n'en a tenu compte, personne ne leur a fourni des masques, oui, personne ne les a écoutés. C'était les plus abandonnés des abandonnés, parce qu'ils sont nombreux à avoir été abandonnés pendant cette crise. Mais vraiment, pour moi, les aidants ont été les plus abandonnés de tous.
Les aidants, les aides-soignants, auxquels nous avons donné régulièrement la parole sur cette antenne et dans ce grand journal, qui nous disait la même chose, même constat que le vôtre ce soir. On a mis, cela dit, l'accent à juste titre sur le personnel hospitalier, sur les urgentistes, les infirmières, les réanimateurs. Mais vous considérez qu'on a mis trop l'accent sur le problème de la saturation des lits de réanimation. C'était tout de même une réalité, Hélène Rossino.
C'était tout à fait une réalité, et en fait je pense qu'on a trop séparé l'hôpital et le monde du domicile. On a trop séparé, et même avant cette crise, hein, le monde du médico-social et le monde de la santé, du sanitaire. Ça n'a aucun sens. Ce sont les mêmes patients qu'on prend en charge, ce sont les mêmes proches qui sont là, et à force de découper notre système en cases et de se préoccuper plus de l'un que de l'autre, on se retrouve avec des aberrations complètes. On ne peut pas gérer le Covid sans le monde du domicile, et bien sûr, on ne peut pas le gérer non plus sans l'hôpital. Ce n'est pas normal d'avoir à continuellement les opposer les uns aux autres. Parce que plus le domicile est bien géré, moins les patients ont besoin d'aller, par exemple, aux urgences ou autres.
Oui, c'est donc un cri que vous lancez, hein, un cri que vous relayez aussi sur cette antenne, alors que les premières propositions du Ségur de la santé doivent être rendues à la mi-juillet. Ces aidants, ces soignants à domicile, seront-ils considérés à leur juste valeur ?
Eh bien, je ne peux que l'espérer, mais je dois dire que je suis pas forcément extrêmement optimiste. J'ai du mal à voir comment on pourrait passer de plusieurs mois d'oubli complet à d'un coup une reconnaissance qui est pourtant absolument nécessaire. Quand on voit que on fait des grands plans d'un côté et que 6 mois après, l'urgence fait disparaître toutes les bonnes intentions qui avaient été dévoilées, c'est vrai que j'aimerais être optimiste, et très sincèrement, j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Mais le pragmatisme aujourd'hui me fait dire que ça me paraît mal barré, pour parler un peu franchement.
Qu'attendez-vous alors, un geste qui serait idéal en cette période pour être reconsidéré? Une prime exceptionnelle pour tous ceux qui ont travaillé à domicile, à tenir ce lien social, humain et médical?
Alors, pour les soignants, effectivement, et du médico-social et du sanitaire, mais surtout, en fait, j'attends deux gestes. J'attends une vraie reconnaissance, hein, qui prennent une forme politique, dans des plans, par écrit, enfin. Mais j'attends aussi une vraie reconnaissance de la part de la société. Parce que c'est quand même trop facile de tout mettre sur le dos des politiques. Ils sont quand même là parce qu'on les a élus, ils représentent la société. Si la société ne réclame pas elle-même une reconnaissance, ben, il n'y en aura pas. On l'aura nulle part. Donc ce que j'attends, c'est vraiment que les politiques fassent un geste, et que nous, en tant que société, on fasse un vrai geste aussi. Parce qu'on sera tous un jour aidants ou aidés, qu'on a toujours besoin de soignants, qu'on a besoin des personnels du médico-social. On les a applaudis tous les soirs, là, pendant quelques mois. Mais aujourd'hui, ça se traduit plus du tout en acte. On a complètement oublié ce qui s'était passé. Oui. Il y a plus vraiment de respect. Quand on voit ce déconfinement, il y a quand même un retour du risque. Tout le monde a repris sa vie, sauf les personnes vulnérables et leurs aidants, qui sont toujours morts de trouille à l'idée que leurs proches attrapent le Covid. Mais il y a un tel relâchement que plus personne n'y pense. Et d'ailleurs, ça choque maintenant quasiment. On le voit, il y a des gens qui se rebellent, qui ne veulent plus porter de masque, qui en ont assez. Ce qu'on a fait pendant 2 mois, applaudir, etc., j'aimerais aujourd'hui que ça continue, que ce soit vraiment suivi d'une prise de conscience générale des politiques et de la société. N'oublions pas.
Veut-on encore d'un monde hors de l'hôpital ? Voilà votre livre aux éditions de l'Observatoire. Vous qui êtes docteur en santé publique, Hélène Rossineau, et qui soulignez le travail de tous ceux qui ont œuvré aux soins à domicile, oubliés, méconnus, négligés, maltraités, écrivez-vous. Merci de ce discours sur notre antenne.
Merci beaucoup.
Dans l'ombre des grands chefs, Wendy Bouchard.
Et oui, on va suivre en cuisine comme chaque semaine Pierre Herbulot avec une recette de fraises. C'est un peu le fruit du moment.
Hein. Voilà.
Bonsoir Pierre, vous nous régalez de nouveau, on vous écoute.
Bonsoir Wendy, quel plaisir de retourner au restaurant. Alors ce soir, je vous emmène à Giverny, au Jardin des Plumes avec le chef David Gallienne. Bonsoir chef.
Bonsoir.
Chef étoilé que vous avez peut-être pu voir à la télévision depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme recette aujourd'hui chef?
Alors on va faire une petite recette toute simple qui est facilement réalisable à la maison. On va faire des fraises poêlées. Au poivre de Timut avec un petit crumble, une petite crème fouettée fermière de Normandie, bien sûr.
Naturellement.
Et puis quelques petites pousses de chiseaux.
Par quoi on commence ?
Alors on va commencer par poêler nos fraises. Donc on va lancer un caramel à sec. Donc pour bien réussir son caramel, puisque je sais que vous avez beaucoup de difficultés avec ça, il faut d'abord commencer par faire chauffer la poêle et qu'elle soit très chaude quand on y jette le sucre.
Avant de mettre le sucre ?
Avant de mettre le sucre.
Bon bah, astuce bonne à savoir.
Alors c'est vraiment un aller-retour, hein. C'est comme un steak bleu, on va vraiment venir faire sauter nos fraises vivement dans le sucre.
Alors, vous avez versé le sucre, effectivement, il a quasiment déjà fondu.
Et donc là, on va venir jeter nos fraises dans le caramel. On les roule.
Qu'elles soient bien enrobées.
Et hop, on les débarrasse aussitôt dans une assiette.
Ah oui, c'est 20 secondes.
C'est 20 secondes. Un petit tour de moulin à poivre de Timut. Poivre de Timut, j'aime beaucoup ce poivre. Je le trouve vraiment très parfumé. Il a des notes un petit peu agrumes. Et ça rapporte une belle fraîcheur à nos fraises. Donc là, on va tout simplement mettre du crumble dans notre assiette. Donc c'est un mélange de beurre, farine, sucre. Moitié sucre cassonade et moitié sucre blanc. Et poudre de noisette.
Tu vas porter forcément le croustillant dans l'assiette.
Ça va être le biscuit en fait. Hein. Souvent dans un dessert, même s'il est déstructuré, on a un biscuit, une crème, un fruit.
Donc le crumble dans l'assiette, quelques petites fraises par-dessus.
Quelques petites fraises. Donc en fait, on a vraiment l'impression de les sortir du fraisier. C'est un peu comme la terre en fait. Voilà. On va venir se mettre notre petite crème diplomate. Alors qu'il y a une base de crème pâtissière avec une crème fouettée qu'on a infusée au poivre de Timut.
On entend qu'elle est bien foisonnée, bien aérienne, cette crème.
Pour moi, il est important de terminer un dessert sur une touche de légèreté.
À la maison, si on n'a pas le temps, est-ce que vous nous autorisez à faire une petite chantilly ?
Oui, à la maison, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez venir mettre juste une petite crème fouettée fermière, chantilly, sans aucun problème. Un petit zeste de citron. Nos petites pousses de shiso.
Alors shiso, c'est une plante japonaise.
C'est un peu notre basilic à la française, quoi.
Alors là, c'est pareil, si on trouve pas de shiso, est-ce qu'on peut mettre peut-être de la menthe ou du basilic ?
De la menthe, de la verveine citron. Et voilà,
il n'y a plus qu'à déguster.
Il n'y a plus qu'à déguster.
Bon, ça y est, c'est l'été, hein. C'est hyper frais, on a les fraises bien sucrées enrobées de caramel avec les fraises fraîches à côté, le crumble croustillant. En dessous, ce petit terreau qui apporte un petit peu de gourmandise. La crème, hyper foisonnée, très peu sucrée, ce qui rend le plat superbement équilibré. On est vraiment en balade dans les rangées de fraisiers avec le chef David Gallienne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ah, moi, j'aime bien quand Pierre Herbulot ramène sa fraise. Vraiment.
Ah, pas mal. Je l'avais pas, celle-là.
Un grand classique. Toutes les ingrédients et les proportions sont à retrouver bien sûr sur europe1.fr.
Absolument, à suivre Un jour une histoire, Philippe Legrand de Paris Match reçoit Véronique de Villèle, la gym tonique chevillée au corps et une date émouvante pour elle sur Europe 1. A tout de suite.
Et pour clore ce grand journal du soir sur Europe 1, voici l'entretien de Philippe Legrand, Wendy Bouchard.
Un jour une histoire et votre invité Philippe Legrand. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous, bonsoir Véronique de Villèle.
Bonsoir.
Allez, c'est un peu la gym tonique même, surtout et encore oui, Véronique oui. de Villèle, c'était Véronique du duo, Véronique et Davina, la gym tonique. Elle est toujours là puisque vous continuez encore et toujours. Et vous continuez aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, à vous engager pour un certain nombre de causes qui vous tiennent à cœur. Le cœur, c'est important, et le cœur de l'amitié. Vous avez choisi de raconter ce 21 septembre 2006, lorsque Annie Girardot, main dans la main avec Julia et sa fille, et Lola, sa petite fille, décide d'annoncer à la France entière sa maladie d'Alzheimer. Un moment fort.
C'est un moment fort parce qu'en plus, la dernière sortie d'Annie que je connaissais un peu a été pour venir au Théâtre Marigny où jouaient Mireille Darc et Alain Delon pour notre fameux gala de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Ça a été sa dernière sortie. Donc évidemment, c'était extrêmement émouvant. Et puis, c'était une femme que j'adorais, que tout le monde adorait d'ailleurs. Mais savoir qu'elle annonce qu'elle perd la mémoire parce que cette maladie est un fléau.
C'est une première en France devant les médias. Oui, Paris Match a été le premier à lui donner la parole.
Exactement, oui, tout à fait.
Et c'est un effort qu'elle fait, finalement, encouragée par sa fille et sa petite-fille.
Elle a été encouragée. Elle a un peu été aussi poussée par un garçon qui s'occupait beaucoup d'elle, qui s'appelait Léo, et qui m'avait dit « Je vais tout faire pour qu'elle soit à ta soirée du gala à Alzheimer. » Elle est arrivée, tout le monde s'est levé. Et à son tour, quand on lui a rendu un hommage, elle s'est levée. Donc c'était un souvenir absolument...
Beaucoup d'hommages, beaucoup de public qui se lève aussi. La profession, elle avait montré aussi, avec des larmes, une émotion et peut-être déjà une première fragilité. Il faut se souvenir aussi de ces Césars,
bien sûr,
1996.
Ça, c'était terrible. C'était une espèce de message dans lequel elle nous dit qu'elle a été abandonnée par le métier, parce qu'elle le dit carrément.
Totalement fragilisée.
Moi, j'ai trouvé que c'était épouvantable à regarder.
Il y a cette phrase qui est en tête et dans toutes les mémoires. « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma, mais à moi, le cinéma français m'a manqué.
Magnifique.
Follement, éperdument, douloureusement. »
Et en larmes, disant ça en larmes. Et on voit cette femme dans cette détresse absolue et on se dit « Ah bon, mais on l'a abandonnée. » C'est horrible.
Et après, il y a eu des hauts et des bas. Et cette date du 21 septembre 2006, officiellement, elle le dit, c'est un geste important parce que ça a permis aussi au public, mais aussi au pouvoir public de prendre des mesures.
Ben, bien sûr, puisque les mesures après, il y a eu le plan Alzheimer qui a été déclenché par le président Sarkozy. Il y a eu quantité de choses. Et puis, c'est parler de cette maladie, il faut en parler. Parce que plus on en parle, plus les gens auront cette générosité de faire des dons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire un don, même s'il est tout petit, il est très important pour la recherche. Il y a une phrase du docteur de la Doucette, Olivier de la Doucette, qui est le président de notre fondation, que je cite souvent et que je trouve absolument merveilleuse. Il faudrait qu'un jour, on puisse dire « J'ai eu la maladie d'Alzheimer ». Mais on est encore un peu loin de tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise. Et c'est pour ça qu'on fait, nous, tous les ans, ces soirées de gala ou ces soirées de pétanque. Enfin, on essaie toujours de faire des choses pour
ça. On va y revenir, Véronique de Villèle. Restons sur un instant sur le 21 septembre 2006. Il y a cette phrase, parce qu'elle passe, comme le dit Julia et Lola, sa fille et sa petite-fille. Il y a des moments de présence et d'absence. Ce sont leurs mots à tous les trois. Et finalement, il y a aussi de l'humour. Elle a été cette femme drôle qui n'a pas voulu se laisser embarquer comme ça hein, quand elle avait ses moments de lucidité. Allez, il y a cette phrase encore qu'elle dit à ce moment-là quand elle révèle ce jour-là. Elle est entourée de ses chats et elle dit « Avant, je collectionnais les amants. Maintenant, je suis passée au matou. »
Très, très jolie. Moi, je la retrouvais souvent dans un petit café juste en bas de chez elle, à côté de la place des Vosges. Et c'était un moment magique. Je suis très, très heureuse de l'avoir rencontrée plusieurs fois.
Véronique de Villèle, vous l'avez dit en évoquant le docteur Ladoucette. Vous auriez pu parler aussi du professeur Dubois. Vous êtes très engagée auprès de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Vous accompagnez aussi, car vous en êtes la marraine, l'équipe de 13 et 5 et Stéphanie Cassan dans un certain nombre d'événements, notamment le 3e trophée qui se prépare de pétanque. Tout ça pour mobiliser et sensibiliser l'opinion.
Quand on a créé avec Stéphanie Cassan, mon amie, tout le monde m'a regardé en disant « Véro est complètement folle ». Mais en attendant, on a réussi à déplacer énormément de monde. Stéphanie est une chef d'orchestre absolument extraordinaire et ça rassemble beaucoup, beaucoup de gens.
Alors c'est un
gens...
défi autour de la boule, c'est
oui,
ça
oui, bien
avec
sûr,
des personnalités qui s'engagent.
Alors le principe, c'est que ce sont des grosses sociétés qui sont invitées à participer en payant, bien entendu. Et mon job, entre guillemets, est de leur mettre une personnalité par société, par entreprise.
Et les fonds sont reversés, évidemment, ça il faut le dire.
En direct, à la recherche. À la recherche.
Alors que vous dit aujourd'hui le professeur Dubois? Parce que je sais que vous êtes en contact avec lui et le docteur Ladoucette. Parce qu'il y a une vraie question. Où est-ce qu'on en est?
Le professeur Bruno Dubois et Olivier de la Doucette, quand cette fondation a été créée, j'étais avec eux, c'est-à-dire il y a 15 ans. Alors depuis 15 ans, ça a évolué. Moi, je ne suis pas du tout médecin, donc je suis incapable de vous dire le truc qu'on a trouvé, le médicament, le machin. Moi, je fais tout avec mon cœur et je suis sur le terrain pour ramasser du monde. Donc vous dire exactement aujourd'hui où on en est, je serais bien incapable ou je me tromperais dans mes chiffres.
Merci Véronique de Villèle d'avoir ouvert votre cœur et de nous avoir rappelé cette femme, cette grande actrice Annie Girardot et ce 21 septembre 2006 sur Europe 1. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, Philippe Legrand, c'était l'entretien. Et c'est la fin de ce grand journal du soir.
Merci. Toutes ces séquences à retrouver en podcast sur europe1.fr. Je vous dis merci, Victor Chabert, à la programmation avec Taïma Benchemal, Benchemann, Kevin Ousti, Marlène Duret, Fabien Lecoeuvre et les infos de Sophie Tussaud qui reviennent dans un instant. À suivre, Lionel Rosso et son invité exceptionnel, Jean-Michel Aulas. À demain.
À demain. 18h.